Game blogueuse, game blogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast 326 déjà. Et
mais qu'est-ce
pour commencer,
qu'est-ce
si vous êtes premium, vous pouvez voir quelque chose, un petit changement. Et oui, vous le saviez déjà, nous avons déménagé fin novembre et depuis nous avions entrevu l'idée de faire des travaux pour changer un peu
d'immenses travaux.
Les maçons
de l'impossible.
Pour changer un peu les podcasts, un peu les décors. Et ben voilà, c'est aménagé. Julien est arrivé,
sympa.
Notre Martin Bouyganou. Il a mis des cadres, des stickers,
des briques.
Il nous a fait des briques.
Des briques que j'ai pas portées les unes après les autres.
Effectivement.
Tac, des briques.
Et je me rappelle le mastic aussi, hein, qui
c'est trop dur.
Qui est tout frais encore.
J'ai tordu mes doigts.
Et donc, nous avons un tout nouveau plateau qui est amené à évoluer, évidemment. Mais il n'y a pas que le plateau qui a changé.
Vous pouvez le voir. On a pris à peu près 5 ans.
On a pris à peu près 5 kilos
semaine.
Grâce au fait aussi. Mais vous pouvez le voir, il y a aussi beaucoup plus de caméras disponibles en même temps.
Wow.
Avec un poufi qui est derrière
la
caméra. Vous pouvez voir, hop, deuxième caméra. Juste
plugin. Represent.
Donc évidemment, à l'audio, ça ne rend rien, évidemment. Bah voilà, bah, il faut être premium. C'est ça la seule solution.
Et là, on est reparti par là-bas. Regarde, regarde, on peut faire des trucs magiques. C'est ici.
Ouais. Et
tac
maintenant, c'est là.
C'est là. Bon, on recommence. C'est là. Ah, c'est ici.
Et
oh
ça,
là
n'a,
là,
plus,
ça,
et ça n'a aucun sens à l'audio. Donc
exactement.
N'oubliez pas. Si vous êtes premium, c'est bien mieux. D'autant plus que si vous êtes premium, petite transition.
Il y aura des extraits vidéo aussi, des jeux dont on
va
parler. Parce que vous avez été
trailers,
très nombreux à nous le demander depuis très longtemps.
Ouais.
Oui, mais bon, vous parlez de jeux. On veut les voir aussi pour nos membres premium. Eh bien voilà, c'est possible. Il va y avoir du split screen, etc. C'est la première. Hein, pouf le gain aux manettes, tout ça. Bon, c'est un petit peu comme le décor.
Enfin, split screen de 24 hein, d'ailleurs. Hein.
Bah,
c'est
24,
un peu
38,
en temps réel.
48
en temps
heures,
réel, absolument.
Si tu veux. Donc voilà, ça va être amené à évoluer pour vous offrir une vraie petite émission désormais.
Ouais, ça ressemble un peu plus à une émission comme ça, effectivement. Mais l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes premium, il y a encore deux concours en ce moment.
Mais
deux concours. Le premier, vous le connaissez, c'est la Mega Drive en or, limité à 3 exemplaires. Et
elle
que vous pouvez en remporter une. Oui, elle est là.
Elle est là.
Ah,
regarde,
on peut la toucher. Et
voilà.
Donc, signé de son concepteur, c'est quand même pas rien. Mais il y a un autre concours qui va arriver. Celui-ci se termine le 1er février, d'ailleurs, au passage. Un autre concours arrive
ce lundi.
Si vous êtes premium, bah voilà, c'est ce lundi. Si vous n'êtes pas premium, bah c'était il y a deux jours que ça a commencé. Grouillez-vous. C'est un concours pour aller voir un concert, le concert Zelda Symphony of the Goddess, qui se tiendra le 23 avril 2015 au Palais des Congrès à Paris. Ce sera deux places à gagner. C'est pas rien non plus, c'est un beau cadeau. Aujourd'hui avec moi, il y a évidemment, vous l'avez entendu, Julien.
Et sa bouteille de rhum.
Voilà.
Merci membre premium. On a eu une session premium soutien incroyable.
De toute façon, c'est extraordinaire.
Vous pouvez aller voir sur Twitter et compagnie Plume Chante, pour ceux qui avaient demandé avec le hashtag Plume Chante. Eh bien ça y est, il a enfin chanté.
Mais c'est pas
tout
enfin
ça,
chanté.
Tout ça, il y a des preuves sur les internets. En tout cas, merci à nos amis qui sont venus. Un petit
c'était
peu de toute la France, de Marseille, de La Rochelle, de Paris, enfin un peu partout. C'était un super moment.
Ah, c'était un excellent moment. D'ailleurs, je tiens à dire que Romain, qui est avec nous aujourd'hui, était parti un peu plus tôt que les autres. C'était un peu
plus tôt.
Je suis parti plus tôt,
effectivement, parce que j'ai vu que le karaoké s'approchait, donc je me suis barré discrètement.
C'est dommage, parce que t'aurais chanté des choses incroyables, j'imagine.
T'as même loupé un
peut-être
karaoké.
Peut-être j'aurais
chanté
des choses incroyables, mais très mal.
Oh, mais non, je suis sûr que tu chantes bien, que tu veux pas le dire.
Un exemple tout de suite. Vas-y.
Non.
Tu m'as chanté Gabi, 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 la minée tout petite tout à l'heure.
C'est Rami, la minée tout petite.
D'accord.
C'est un remix.
Bon, ça va, Romain?
Bah oui, ça va.
T'es content que je t'ai balancé comme ça?
Ça fait très plaisir.
Bon, il y a évidemment pour finir Julot.
Bonjour, Plumeau.
Alors Julot qui n'a pas de voix normalement, mais là bizarrement il l'a récupéré. T'as pris tes petits bonbons.
J'ai une petite
pastille
dans la bouche, mais je vais essayer de pas vous le faire remarquer.
Très bien. Et
c'est
Julot
magique, faut savoir.
Qui va s'occuper maintenant des sons.
Ah non, c'est juste pour cette fois.
Non, tu vas t'occuper des sons définitivement, ça te décharge, c'est cool. Donc
man.
Toute la palette de sons maintenant, dès qu'il va y avoir un son qui va apparaître, et ben ce sera pour Julot. Et d'ailleurs, on va commencer par le sommaire, Julot.
Mais je suis pas trompé.
Non, tu ne t'es pas trompé.
Le suspense est incroyable.
Bien appuyé sur le
de
bon bouton.
De quoi on parle cette semaine?
Eh bien, cette semaine, nous allons parler de deux thèmes. Le premier, ça concerne Microsoft, qui a fait une annonce incroyable en même temps que Windows 10. Ça s'appelle HoloLens. C'est de la réalité virtuelle, augmentée. On ne sait pas quoi.
Holographique,
c'est entre les deux. Et moi qui avais annoncé les hologrammes dans le dernier podcast, je peux vous dire que j'étais déjà en train de.
Non mais t'es un génie.
Et donc ils nous ont annoncé ça, ils nous ont montré ça. Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que ça va être mieux que tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui? Les gens qui l'ont essayé sont-ils convaincus? On vous en parle tout à l'heure. Juste après, nous allons parler de Resident Evil qui est arrivé sur PlayStation 4 la version Rebirth, comme l'avait failé Joypad à l'époque. Et c'est devenu la norme. Voilà. Ah, voilà. Un fail qui devient la norme, c'est grâce à Joypad. Et...
c'est un petit plus produit du magazine.
Exactement, il y avait des montres Roi Lion et puis il y avait ça.
Bien c'est comme ça. Slogan, c'est le fail qui devient la norme.
C'est un peu ça, c'est un
gage de qualité.
Mais quand c'est comme ça, c'est bon. Voilà. Bah, c'est comme le Roquefort. Voilà.
C'est ça.
Julien nous avait raconté l'anecdote du Roquefort. L'anecdote du Roquefort, c'est quoi?
Le Pénicillium Roquefortis.
Ouais.
Eh bien, le Roquefort est né en fait d'une erreur. Un berger dans ses cavernes près de Rochefort.
Je t'imagine bien sur CNN en train de dire ça.
Avait abandonné dans une caverne. Donc son fromage, il est revenu plusieurs jours après. Et puis il s'est rendu compte que le fromage avait pourri. Il l'a néanmoins mangé car il avait faim. Et il a découvert une saveur extraordinaire que vous découvrirez la semaine prochaine.
C'est la première fois qu'on voit de la musique du jingle.
Et donc c'est grâce à cette substance qui s'appelle le Pénicillium Roquefortis qui fait cette petite pourriture que les Américains n'aiment pas et que nous raffolons.
Le meilleur fromage de tous les temps. Nous parlerons donc de Resident Evil et des autres survival horror à surveiller cette année, dont Dying Light d'ailleurs, qui est un petit peu dans la tourmente, on va en parler tout à l'heure, ou encore Until Dawn, Dreadout et Resident Evil Revelations 2.
RER2.
Moi, je prends le RERB moi le matin.
Lui c'est RER2.
Très bien, mais avant ça, nous allons évidemment faire un petit détour par le win de la semaine.
Oh, il a gagné.
Et qui c'est qui l'a gagné, mon petit Julien?
Alors le win de la semaine est décerné aux Amiibo de Nintendo qui ont fait un véritable carton en France. Ça a été annoncé dans les colonnes de nos confrères du JDLI. Et il se serait vendu donc sur le premier mois de commercialisation des Amiibo 200 000 exemplaires.
C'est énorme.
C'est gigantesque. Ouais, on a fait nos petits calculs, on a sorti nos calculettes, multiplié par 15 €, on va dire, c'est le prix de vente, à peu près moyen.
Je dis, d'ailleurs,
y a
moins
pas
cher,
si c'est le moyen,
il y a aussi beaucoup plus cher.
Voilà. Mais dans tous les cas, ça représente quand même la bagatelle de 3 millions d'euros de chiffre, ce qui est
de chiffre d'affaires. Donc c'est pas ce que touche Nintendo.
Bien sûr.
Mais enfin bon,
c'est le chiffre dégagé.
Enfin, je pense que c'est chez Satoru Iwata et chez Shigeru Miyamoto, ils sont quand même là.
Ah bah là, c'est du billet. Quand en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, ils sont super malins parce qu'ils sortent des nouvelles éditions, mais avec des nouvelles petites postures de Mario, etc.
Ça c'est fourbe.
De l'Amiibo Mario, on va en bouffer.
Ah oui, ils ont su tirer les meilleures idées de Skylanders, parce que pareil, Spyro, il a été fait déjà.
Ah mais c'est une bonne chose en même temps, parce que regarde, quand on sait que c'est pas, il y a pas plusieurs sauvegardes par Amiibo par jeu. Bah, t'as plusieurs Amiibo.
C'est une bonne chose.
Oh, bah,
c'est un bien grand mot.
Franchement, c'est super bien.
C'est vrai, ils auraient pas pu mettre une puce NFC avec une sauvegarde plus conséquente.
Non, ils auraient pas pu. C'est comme ça, tu vas pouvoir acheter plusieurs fois les Mario.
Voilà,
et dire à tes parents, oh papa, il me faut l'autre Mario aussi.
Et d'ailleurs, dans le papier, l'un des responsables de Nintendo soulignait à quel point ils avaient remarqué que pour l'instant, c'était beaucoup de joueurs qui les prenaient pour la collection et non plus que pour l'aspect jeu. À la fin, on le comprend, parce que l'aspect jeu est pour l'instant assez limité. Et les collectionneurs, les fans de Nintendo, on vous connaît, là regardez, vous êtes par là, je ne sais pas.
Oui, on est là aussi.
Bon, vous êtes extrêmement nombreux et on savait que ça allait cartonner, mais là c'est vrai que c'est confirmé.
C'est phénoménal. Alors, pour la France, enfin, t'imagines les chiffres mondiaux.
Imaginez Wario et Rondoudou sont pas encore arrivés.
Il y a un marché alternatif maintenant. Alors si on savait déjà que les amiibo défectueux se vendaient parfois plusieurs milliers d'euros. Là maintenant, les amiibo les plus rares, parce que c'est avéré, hein. Il y en a certains qui seront plus reproduits, donc des tirages limités.
Apparemment, là, il faut absolument trouver Harmony là en ce moment.
L'amiibo recherché. Mais bon, on sait déjà, comme le villageois par exemple, qui malgré sa présence au Furet du Nord, sa présence au Furet du Nord,
le charisme du villageois
est confirmé. Et bah voilà, il fait partie de ceux qui ne seront pas remis dans les
réunions. D'ailleurs, il n'est pas compatible avec Mario Kart, par exemple.
Bah non, mais parce que le villageois n'est pas dans Mario Kart.
Bah ouais.
Donc c'est la logique, quoi.
Peut-être qu'il servira
à intégrer.
Bon, d'un
côté, il y a un amiibo Mario qui est compatible avec One Piece, donc ça c'est au Japon.
Mais si tu veux, j'irai te le chercher, le villageois, si tu veux.
Ah, je sais pas.
Au Furet. Au Furet, absolument.
Je me tâte.
Le fail de la semaine.
Oh. Eh bien, le fail de la semaine, c'est Amiibo. Google. C'est...
Google, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Mais Google arrête les Google Glass, ça y est, fini. C'était pas assez bien.
Mais pourquoi
bien. Alors, on s'est trompé, monsieur. Faut recommencer. Non, en fait, ils abandonnent pas évidemment le concept des Google Glass, mais ils vont un peu rebooter la chose et tirer vraiment un trait sur ce qui a été fait jusque là.
Ils abandonnent ce modèle là en fait,
le, ouais,
ils
ouais,
abandonnent
qui était, la première version, qui était en vente, ouais, pour 1 500 $ environ. Donc
c'est cher, ça.
Ceux qui l'ont acheté doivent être ravis, tous les développeurs qui ont bossé dessus doivent être ravis, mais ça va être rebooté. Et ce qui est marrant, c'est que ça arrive vraiment quelques jours avant que Microsoft annonce les HoloLens. Donc voilà,
il sait peut-être quelque chose.
C'est là où je trouve que c'est très intéressant, parce que finalement en fait les trois géants d'internet aujourd'hui, des nouvelles technologies que sont Google, Facebook et Microsoft, se sont ou sont en train de se positionner sur autre chose que l'écran, c'est-à-dire Google avec les Google Glass, la réalité augmentée donc, Facebook en ayant racheté Oculus sur la réalité virtuelle, et Microsoft maintenant qui arrive avec quelque chose un peu entre les deux, entre réalité augmentée et holographique, etc. Donc on voit que ces trois géants-là sont en totale réflexion sur le après, après l'écran, et en tout cas rapprocher encore la technologie de l'humain.
Et c'est étonnant que, pour le coup, Apple, qui est plus ou moins à la première ligne des innovations, etc., n'est rien proposé de ce genre-là jusqu'à présent.
Ça va être la montre, hein, oui, eux, ils vont rapprocher l'écran, mais en te la mettant sur le poignet.
Ouais.
Et puis ils arrivent jamais vraiment en premier, Apple, en fait. Ils démocratisent.
Ils mettent un design, en fait, surtout.
Ouais,
sur
ou alors ils prennent un concept existant, parce mais ils le bouleversent complètement.
Les tablettes, ça existait déjà. Les smartphones, ça existait déjà.
MP3 existait avant l'iPod, mais ça a toujours
été. Et pareil, l'iPod a fait. À propos, ça peut aussi être beau. Et, voilà, c'est
Et les montres là, effectivement, on parlait des montres, il y en a déjà plein chez Samsung et d'autres.
Withing, chez Withing, il y en a une super, et c'est des Français, hein, ça s'appelle l'Activité, je crois. Mm-hmm. Elle est magnifique parce qu'elle ressemble vraiment à une vraie montre tout à fait normale, ronde, avec le cadran, les petites aiguilles. Elle n'est pas numérique du tout à ce niveau-là.
En fait, c'est une vraie montre. Ouais, elle n'est pas du tout connectée.
Non, mais si, justement, tous les capteurs sont à l'intérieur.
En fait, je veux juste faire de la pub. Voilà,
totalement transparent à l'intérieur. Et en fait, ils sont connectés avec tout ce que tu fais, ton nombre de pas, ton activité, etc. Mais elle t'indique des choses et c'est assez malin ce qu'ils ont fait.
À regarder.
Et surtout, elle a une grosse, énorme différence et un sacré avantage, je trouve, c'est qu'elle a une autonomie de plusieurs semaines et non pas une journée.
C'est très bien.
Ouais, parce que la montre d'Apple, c'est ça.
Bah,
c'est...
pour l'instant, ça va être a priori, on
mais
se dit une
fait...
journée.
Ça fait longtemps.
Tu rentres chez toi, tu recharges ton iPhone. Ouais.
Alors que tout le monde dort avec sa montre, c'est bien.
Ta cigarette électronique.
Ouais, mais vu que ça fait quand même un sacré bout de temps que Apple n'a pas parlé de sa montre, peut-être qu'ils ont revu ce système-là, parce que c'est vrai qu'ils ont fait une annonce en grande pompe.
Des roquettes,
on leur souhaite, parce que ça va être un truc qui
ça pose problème clairement.
Si à côté de ta table de nuit, tu recharges ton téléphone, ta montre, ton machin.
Ton groupe électrogène à côté du lit.
Et même quand tu pars en vacances. Hein.
Mais voilà, c'est ça.
Si maintenant, messieurs, nous passions... Et là, je vais regarder Romain.
Ah, je me prépare.
Attention, nous allons passer au...
Chiffre de la semaine, mon cher Plumeau.
Exactement.
Et le
J'ai l'impression
chiffre...
que c'est ton moment préféré à chaque fois. Ouais.
Il est en plein kiff. Il se rappelle de Max Meynier.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est le générique
Patrick
du
Roy.
Juste... C'est, voilà, c'est le générique du Juste Prix. Quand tu commences...
Eric Galliano.
Quand tu commences une émission, tu vas pas faire... Oui, bah alors le chiffre de la semaine, Plumeau, c'est 420 000.
C'est vrai, cette musique est quand même assez dingue.
Mais oui.
Mais bien sûr.
Très, très grande qualité.
420 000.
C'est quoi
le chiffre de Xbox One vendu en France jusqu'à présent.
Mais c'est pas le seul
D'après...
chiffre.
Non, c'est pas le seul chiffre, mais je vais étayer par la suite. C'est un chiffre qui a été diffusé par Le Figaro.
La source mystère du Figaro.
Qui ne cite pas sa source, qui peut être.
Ce qu'on peut comprendre, hein, oui. Parfois ça nous arrive aussi. Il y a des sources qui ne veulent pas être citées, c'est normal.
Et donc 401 000, et ça la place à la troisième position des consoles de salon en France, derrière la Wii U qui est à 500 000.
515 000 même, très précisément.
515 000, et la PS4 qui nage au-dessus du game à 1 million d'unités vendues en France. Mmh. Et donc ces chiffres-là montrent que la Wii U peut être encore deuxième, mais que ça va pas durer très longtemps, parce que quand tu vois les pourcentages d'augmentation en un an, la croissance de la Xbox One est quand même bien plus forte que celle de la Wii U. La Wii U, c'est 70% d'augmentation et la Xbox, c'est 232%. Donc que Nintendo se gargarise d'être deuxième pendant encore un petit moment, mais ça devrait plus durer éternellement. C'est une question de moi.
C'est des chiffres pas trop pourris quand même pour Xbox One.
Ah non, c'est un bon démarrage.
Ouais, c'est un bon démarrage. C'est ce qu'on a toujours dit. Hein. C'est un plutôt bon démarrage. Le truc, c'est que la PS4 est tellement au-dessus qu'elle écrase tout. Quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde regarde
ça
tellement haut
peu...
que bah, tu, t'oublies qu'il y en a qui sont en bas et mais que le bas est plutôt haut. Enfin,
ouais. Et il faut rappeler aussi que la Wii U elle a
un
an d'avance.
Voilà, merci.
Pardon,
il faut rappeler que la Wii U a un an d'avance. La Xbox One est sortie fin 2013, la Wii U est sortie fin 2012, donc ça change quand même pas mal de choses.
Et effectivement, la Xbox One a bénéficié d'une dynamique plutôt intéressante en cette fin d'année dans le monde, mais en France aussi, avec des même s'il n'y a pas eu de baisse de prix à proprement parler pour la France, il y a eu beaucoup de packs qui regroupaient plusieurs jeux pour le même prix, qui étaient donc plutôt alléchants. Et on imagine bien quand même que vu que Microsoft aux États-Unis a répercuté une nouvelle fois sa baisse de prix, elle va arriver à un moment ou à un autre en Europe. Et je pense qu'on n'est pas loin non plus de voir une baisse de prix de la Wii U. Ce serait important, avec un catalogue du côté de Nintendo qui va s'étoffer en 2015. Il faut une baisse de prix pour maintenir aussi comme ça ce trend.
Historiquement, Nintendo a toujours été super réticent vis-à-vis des baisses de prix. Quand tu remontes même jusqu'à l'époque de la NES ou de la Super NES, c'était la guerre par exemple aux États-Unis avec Toys R Us ou Walmart, ou qui voulaient que Nintendo baisse le prix des consoles. Et Nintendo,
la Super Nintendo a baissé assez vite en France, si je me rappelle. Elle est passée de 1990 à 990 assez rapidement.
En France, je sais pas, mais je sais
si
que
je me souviens. Et la 3DS avait dû subir aussi une petite baisse rapide au sein.
Il y avait le programme ambassadeur avec la 3DS.
Ce que je sais, justement, j'ai appris quelque chose concernant la baisse de prix de la 3DS qui est effectivement intervenue très rapidement. Je crois que c'est 4 mois après sa sortie.
Un truc comme ça.
Parce qu'il y a vraiment un retard à l'allumage, ça peinait, que Nintendo a un peu flippé d'une certaine mesure. Et j'ai appris que rétrospectivement, si c'était à refaire, Nintendo ne l'aurait pas refait.
Ah bon?
Non.
Parce qu'ils ont surtout été tirés vers le haut par la sortie de deux jeux très importants.
Ils auraient
juste
préféré
après
maximiser
la
les ventes et que la baisse de prix finalement n'a été qu'un petit bump. Mais...
C'était le Super Mario.
C'était Mario Kart, je crois.
Mario Kart 7.
Ah oui.
Bah, le truc, c'est que quand la 3DS est sortie chez nous, c'est vrai que le catalogue n'était pas dingue. Et même si tu voulais vraiment utiliser la 3D, parce que c'était un peu l'argument de vente majeur. Et il n'y avait pas de truc vraiment bluffant qu'il utilisait à ce moment-là. C'était limite les mini-jeux que tu avais sur la console qui étaient plus.
C'était surtout le bad buzz majeur, la 3D en fait. Hein. Vous souvenez bien, juste avant qu'elle soit lancée, il y a eu cette fameuse polémique sur les yeux des enfants, etc. Et ça les a beaucoup handicapés au départ aussi.
Oui, il y a aussi l'histoire du nom. C'est un peu comme pour la Wii U, il y a pas mal de gens qui ne comprenaient pas en fait c'était une console différente et qu'il fallait racheter tout.
Ils croyaient que c'était une DS avec la 3D, donc ils achetaient des jeux et ils disaient alors, c'est bon parce que moi je mettrais juste pas la 3D. Ah bah oui, mais non, c'est pas le même jeu.
Mais non, madame, ça ne marche
pas. La DS 3D l'appelait encore il y a pas si longtemps les enfants.
Très bien. Autre chose à ajouter sur ces chiffres? Ils sont beaux, ils sont chauds.
Non, tu voulais pas prendre un petit pari?
Un petit pari sûr.
En termes de
avec la courbe de croissance, effectivement, c'est vrai. Alors, je veux savoir quand la Xbox One va doubler la Wii U en France, d'après vous? On avait prévu des dates. Toi, tu m'avais dit
Je vais modifier un petit peu. Ah. Je vais dire le 30 avril.
Le 30 avril, très bien. Le 30 avril, donc, on se dira, oh tiens, ça y est, elle est passée devant. Julien.
De toute façon, ça sera forcément à la fin d'un mois. Enfin,
je dirais en septembre.
En septembre, Julio.
Juin.
Très bien. Retenez bien ces dates.
Donc ça veut dire qu'on part quand même tous du postulat que la Xbox One va dépasser la Wii U.
Ah bah a priori
vu les... non plus.
Non.
Mais
la courbe de progression.
Les tendances.
Voilà. Ouais. C'est comme pour les enfants. À un certain âge, on les prend, on les mesure et puis on sait qu'à un tel âge, ils vont faire telle date. Bah ça se trouve c'est pareil. Mm-hmm. Voilà. Bref, on va passer maintenant. Et là, j'appelle Julo pour le jingle à la question du lecteur.
Ah, c'est maintenant la question lecteur.
Et oui.
Attention. Hein.
Vous flippez chez vous, n'est-ce pas? Et vous avez raison, car c'est la question de Tube.
Tube.
Eh oui, Tube qui a posé une question sur Twitter. Oui. Trace Tube. avec le hashtag Gameblog Podcast, vous pouvez nous poser vos questions une fois par semaine. Nous répondrons à la meilleure d'entre elles. En l'occurrence, cette semaine, c'était Tube. Pensez-vous que la presse en ligne JV est à un tournant avec la multiplication des streams ou des lives? Le départ des rédacteurs tradis vers ces sites est-il un signe? Comment voyez-vous le futur de votre profession?
Ça fait peur.
Ah, ça fait
le
flipper,
futur.
Hein. Julien, tu veux répondre en premier, j'ai l'impression.
J'ai envie de te dire que oui, évidemment, il y a une transition. Oui, évidemment que. Alors, peur, c'est un bien grand mot. Mais oui, ça oblige à se remettre en question. Oui, ça oblige à imaginer des choses. Oui, ça oblige à comprendre pourquoi ça intéresse des gens, parce que la réalité surtout c'est que les lives ça passionne des millions de gens dans le monde, des millions de joueurs, et que dans l'absolu je trouve ça assez compréhensible, c'est plutôt cool, c'est un mélange entre petit spectacle et à la fois on apprend des choses, on découvre les jeux, je veux dire, avec du gameplay, donc pas monté, donc la réalité du jeu. Donc ouais, après je pense qu'il n'y a pas que les streams, oui, il y a plein de choses. On est entouré d'énormément, il y a les réseaux sociaux en général qui prennent aussi du temps, il y a la transition entre le jeu vidéo traditionnel, nomade, et les smartphones, les tablettes. Ça fait déjà quelques années que cette transition a quand même beaucoup fait changer les habitudes.
Les critiques maintenant qui sont affichées, moi je vois ça, ça me terrifie, je vois ça à l'arrière des bus.
Ah oui,
les critiques avec des tweets de la part des... C'est pour le bal des vampires que j'ai vu ça à l'arrière des bus. Genre, incroyable, 3 heures de bonheur, signé @juliette22. Là, j'ai fait, ok, là, qu'est-ce qui se passe?
Et tu sais que dans certains cas, certains s'amusent à aller vérifier ses comptes Twitter sur les affiches.
Ah.
Et il arrive fréquemment que ce soit des comptes genre privés, ouais, ou des comptes
avec
pas d'abonnés. Genre, des fois, c'est un peu louche. Quand même.
Ils peuvent se faire leur propre citation.
Ah oui, ils créent des comptes Twitter et ils font leur citation.
C'est vraiment moche.
Si on prend le cas de Gameblog, je crois vraiment que depuis 2007, février 2007, la création de Gameblog, on va d'ailleurs bientôt fêter nos 8 ans.
Il s'en est passé des choses.
Il y a eu beaucoup d'évolution. C'est-à-dire qu'on était sur un site qui était à 99% écrit. Tout était écrit, etc. Bon, j'exagère parce qu'il y avait déjà le podcast. Donc, il y avait une petite composante audio. Et puis, le podcast a évolué, a rajouté cette composante un peu vidéo. On a fait de plus en plus de couvertures de reportages, d'interviews en vidéo aussi. On a rajouté depuis quelques temps maintenant des lives, des interactions avec les lecteurs. La cible s'ouvre aussi parce qu'on voit que l'intérêt des joueurs, ce que vous consommez, etc., change, évolue. Voilà. Donc, je pense qu'un organe de presse, en tout cas comme nous, qui gravitons quand même, faut pas l'oublier, dans l'univers du divertissement, eh bien, se doit d'être assez ouverte et d'évoluer, c'est normal.
Très bien. Romain, tu es du même avis ?
Bah moi, je me disais que c'est finalement presque pas de la concurrence. Parce que je tire pas la même satisfaction ou le même contenu d'un site d'information, d'un stream d'un jeu. Parce qu'un stream d'un jeu, c'est plus une émission de divertissement qu'une émission d'information, finalement. Parce que le joueur va vous montrer le jeu, va donner son ressenti, etc. Mais ça va pas forcément être une critique pointue du jeu ou une source d'information sur les projets à venir.
C'est plutôt un moment où lui, il s'exprime et il partage même avec les personnes qui parlent sur le chat, par exemple, voilà, ou ce genre de choses.
Ouais, donc c'est limite. Bon, bien sûr, ça joue. Hein, c'est le trafic généré par les streams, etc. a forcément eu un impact sur les sites d'information de jeux vidéo. Mais au fond, quand tu regardes ce que chaque camp fait, c'est presque pas de la concurrence.
Très bien.
Pas à tous les niveaux, en tout cas.
Et toi, Julo ?
Bah, moi, je trouve ça intéressant. Après, il y a des choses en live qui m'intéressent plus que d'autres. Mm-hmm. C'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que ce qu'il y a de plus vraiment... ce que ça apporte véritablement, c'est le côté voir un jeu en vrai, quoi. Voilà. C'est-à-dire que nous, quand on écrit nos tests, on utilise souvent des visuels ou des vidéos de l'éditeur, etc. Là, tu as un contact direct avec le jeu, avec son gameplay, et puis les commentaires d'un être humain que tu sens proche de toi, la plupart du temps, parce qu'il n'est pas professionnel, d'ailleurs, hein, c'est ça. Parce que nous, on se met au live de l'autre côté aussi, évidemment, mais c'est aussi les youtubeurs, etc. C'est des gens
qui se lâchent aussi beaucoup,
voilà,
plus, quoi.
Qui se lâchent plus,
un spectacle,
dont on se sent plus proche,
à crier, voilà, à surjouer, etc.
C'est pour ça que je dis que c'est plus du divertissement que de l'information.
Ouais,
finalement.
Voilà, c'est ça. Mais après, il y a voilà, le côté un petit peu.
Mais le truc, c'est qu'après le.
Outrancier, enfin pas outrancier, mais le côté un petit peu spectacle, justement, de certains lives, va plus me gaver qu'autre chose. Mais voilà,
oui, c'est parce que j'en connais un ici, c'est pareil. Voire deux.
Mais moi, d'une manière générale, j'aime pas quand ça hurle pour rien. Ça a plutôt tendance à me saouler qu'autre chose. Et ça détourne complètement l'attention du jeu. Mais après, si c'est ce que tu cherches dans la vidéo. Libre à toi et
oui,
et
puis
après
ça dépend.
C'est juste pas un truc qui me plaît.
Je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire que tu peux très bien vouloir voir un truc, un divertissement, par exemple avec un PewDiePie qui va crier et bidule, et puis après te renseigner un peu plus si tu as trouvé que le jeu avait l'air intéressant ou t'as un petit peu touché. Il va peut-être te faire découvrir des choses parce qu'il touche des millions de personnes.
Ah oui.
Et puis après, bah,
il y a des jeux qui lui doivent
pas mal.
Il y a des jeux qui lui doivent beaucoup. Hein, PewDiePie, mine de rien.
Oui, mais alors par exemple, tu vois un jeu qui lui doit beaucoup, c'est Skate 3.
Ouais.
Ça c'est
Qui a commencé à se vendre par palette,
voilà,
3 ans après sa commercialisation.
Ils ont commencé la production grâce à lui. Ouais. Mais alors après, ça, tu te dis que dans une vidéo de skate, je l'imagine assez mal hurler comme il pouvait faire dans Slender.
Ah, bah,
il hurle tout le temps.
Oui, oui.
Non, pas tout le temps, mais c'est un peu sa marque de fabrique aussi. Mais il hurle pas tout le temps. Attention, la vidéo que tu as vue de Slender, c'était un montage. Hein. Ouais. C'est un montage des meilleurs moments de trucs. Donc il met juste les moments où c'est gueule.
Parce que je.
En live, moi, enfin, quand il fait la vidéo, il gueule pas toutes les secondes non plus.
Je l'avoue, j'ai jamais regardé de vidéo de PewDiePie avant hier. Et donc tu m'as montré pour la première fois.
T'as peut-être pas vu la plus.
Pour la première fois, un extrait de PewDiePie. Moi, bon, c'était un montage effectivement, mais ça hurlait tout le temps. Et j'ai remarqué que pendant ce temps-là, je ne le regardais que lui dans sa petite fenêtre en haut à gauche.
Le
fait qu'il hurle, je ne regardais pas le jeu parce que je me demandais pourquoi ce mec-là hurle comme ça. Et en plus, le type d'hurlement qu'il dit, les petites phrases qu'il sort, ça montre bien que c'était pas de la vraie peur et que c'était totalement de l'acting. Parce que
moi, c'est quand, je suis
terrifié, déjà d'une, je hurle pas, et de deux, je vais pas dire touche-moi les tétons. Hein. C'est pas la première phrase qui sort à la bouche quand t'as peur.
Il est là pour faire rire.
Ouais, bah moi,
dans ce
pas.
Genre, ah oui, mais soit après,
oui, c'est personnel.
Après, les lives, c'est absolument comme tout le reste. Il y a des choses que tu apprécies, des gens que tu apprécies.
Oui, il y a tous les types d'humour. Il y a certains types d'humour que je n'aime pas.
Parce que voilà, il y a des lives qui sont complètement barrés, complètement cons. Il y en a d'autres où tu vas apprendre des choses sur le jeu, dans le calme. Voilà,
ah, mais le fait que ça soit barré, ça me dérange pas.
Je pense que chacun doit regarder
son style.
C'est juste
que ça hurle, c'est ça qui me.
Même, je pense que chacun d'entre nous, quand on fait un live, on n'a pas forcément exactement. Enfin, on va peut-être avoir une approche similaire, mais on va pas le liver de la même manière.
Le truc, c'est que ça dépend de ce que tu me demandes de faire. Par exemple, là, pour le test de Saints Row, j'ai fait. Bon, c'était pas un live, mais c'était
alors,
live.
Justement, je te laisse juste deux secondes, mais comme ça me permet d'en parler, puisque tu le disais, Julo. Maintenant, vous l'avez vu aussi, là, depuis quelques jours maintenant, on reprend aussi les tests vidéo. C'est-à-dire que pour la plupart des jeux importants que vous attendez, on pourra malheureusement pas le faire pour tous. C'est pour ça que je dis, ce sera dans un premier temps, en tout cas, sur les principaux jeux, mais qu'ils soient bons ou pas bons. Hein. On va introduire aussi des petits tests vidéo, comme ça, qui sont une espèce de compromis entre le live, c'est-à-dire on vous montre vraiment du gameplay joué comme ça en découverte et en même temps un avis donné sur le jeu.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, avoir un contact plus direct en plus du test traditionnel. Quoi,
mais donc tu vois, c'est ça là pour. C'était pas en direct, mais c'était dans les conditions du direct pour Saints Row. Là, pour moi, dans ma tête, c'était bien un test vidéo dans lequel je vais revenir sur les différents points techniques, l'histoire, etc.
Il est pas testeur.
Par contre, non, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, si par exemple tu me dis fais une vidéo sur tel jeu, mais c'est pas pour un test, c'est juste pour jouer, pour t'amuser, là je vais pas forcément me comporter de la même manière face caméra. Tout dépend du contexte. Mais pour en revenir aux streamers, etc., et aux youtubeurs, et tu parlais du fait que beaucoup sont amateurs.
Oui.
Mais le truc, c'est qu'aussi, il y a de faux amateurs maintenant.
Maintenant, bien sûr.
Mais ils ne se revendiquent pas comme professionnels, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les plus populaires en vivent, c'est leur travail à plein temps, c'est une grosse masse de travail d'ailleurs. Mais il y a certaines amitiés qui peuvent être délicates à partir du moment où tu passes professionnel, et ça, les spectateurs ne sont pas forcément au courant. Et il y a
aussi
des
petits. Les gens ne sont pas dupes, honnêtement.
Il
n'y
a qu'à voir le nombre de scandales, mecs qui se font bâcher, etc.
Oui, mais
parce
ça, c'est une fois encore, c'est un petit groupe
mais
par rapport aux
personnes.
Il
leur arrive juste la
touche.
Même chose qui arrive à la presse.
Oui, bien sûr.
La presse, au bout d'un moment, on dit vous êtes des vendus, machin, j'ai plus confiance. Et donc les mecs commencent à suivre les lives, etc. En disant c'est des vrais gens, etc. Puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que ces mecs-là gagnent du pognon et que donc ils font partie aussi de la théorie du complot et tout ça.
Ouais, mais
sauf que
c'est différent.
Ouais.
C'est différent parce que.
Non, mais je veux dire, c'est le genre
de transfert d'argent direct qu'il peut y avoir avec un YouTuber ou un streamer n'existe pas dans la. Enfin, pas à ma connaissance,
sûr.
En tout cas, dans la presse. Nous,
française.
On nous accuse d'être vendus alors qu'on ne l'est pas. Eux, on leur dit rien alors que dans certains cas, ils le sont.
Ouais.
Et
on
ça
leur dit pas rien, je
beaucoup
crois.
De gens le
savent. On leur dit des choses.
C'est en train de changer pas mal. Hein. Twitch est en train de revoir vraiment ses CGU, de faire passer des mots,
de faire comprendre que
les conditions sont quand même vachement limitées.
Oui,
à
mais c'est en train d'évoluer aussi. Puis la loi française, normalement, on demande s'il y a un échange d'argent.
C'est un peu le
etc.
Far West pour l'instant. C'est
voilà,
pour
et donc les choses vont peut-être évoluer.
Mais même les éditeurs, on peut commencer à les sentir un petit peu évoluer aussi.
Qui reviennent un peu de la mode YouTuber aussi.
Tu vois, par exemple, tu dis que les gens sont au courant, mais je pense que les gens qui sont au courant et qui s'en plaignent, c'est pas quand ta vidéo elle est vue 2 millions de fois, je pense pas que ce soit la majorité des gens qui sont au courant de ça. Moi je sais que j'ai de la famille, des fois les gens savent que je suis dans le milieu et ils m'envoient mon fils
dans
il adore
milieu.
Mon fils dans le jeu vidéo, je veux dire mon
avec
fils
la brume.
Mon fils adore tel youtubeur, est-ce que tu le connais machin, et tu vois, ils sont des enfants. Et ces enfants là ils savent pas que le mec il est payé par l'éditeur pour dire du bien de son jeu, tu vois. Donc les
mais
gens,
ce qui
n'est
pas toujours le cas non plus, il ne faut pas mettre tout le monde
non,
dans le même
j'ai
sac.
Pas dit, j'ai dit dans certains cas. Je balance pas de nom comme ça. Parce que c'est
si,
pas
vas-y,
le,
balance,
c'est pas
bon,
but,
on est là
mais...
pour ça.
Non, mais j'ai envie de dire, il y en a beaucoup qui sont payés, oui.
Ouais,
évidemment,
bien sûr.
Bah,
c'est pas grave. Hein.
L'échange
moi,
d'argent,
je leur veux pas.
Il y en a plein.
des mallettes entières même.
Puis c'est même beaucoup, beaucoup d'argent, hein. On parle de dizaines de milliers d'euros quand même.
Ouais, ça pourrait remplir la pièce même.
Moi, bon, à partir du moment où je trouve où c'est
on
dit,
va faire des briques avec
si
des,
c'est
des
dit, je trouve qu'il n'y a pas de problème.
Voilà,
après,
le problème,
si c'est
qu'ils le disent pas.
Si c'est dit, et bah à chaque spectateur, téléspectateur, lecteur, etc., de se dire bon bah je le prends.
Tant que c'est en franchise, ouais.
Tu vois, il faudrait même un petit message. Cette vidéo vous est proposée par Activision ou par Electronic Arts.
Mais non, parce qu'ils jouent justement avec le fait que des tas de gens l'ignorent.
Ils le mettent en mention légale à la fin.
Donc ils vont pas les prévenir.
Donc ça souligne bien qu'il y a un problème d'honnêteté.
Bah oui, c'est vrai.
Effectivement. Bon, si nous parlions un petit peu maintenant des 5 articles les plus lus de cette semaine,
je
d'après
sais pas,
vous,
je
quels
sais
sont-ils? Allez, numéro 5. Uncharted 4, nouvelle image bluffante de Nathan Drake.
Ah bah tu m'étonnes.
Est-ce qu'elle est bluffante vraiment?
Ah bah alors.
Moi j'étais pas là, j'étais en Pologne à ce moment-là, donc je pouvais pas savoir.
Eh bien regarde, nos amis là, non, elle est là, la voix.
Ouais,
elle est là. Juste là, voilà,
là,
de ce côté
ça
là.
Okay.
Exactement, par là, comme ça. Mmh. Ce qui est bluffant, c'est que c'est une image. Pas de synthèse,
ouais.
Mais in-game, avec le moteur du jeu, les shaders,
on est sûr
les
ombres.
Ah bah oui, parce que c'est la nana, parce que c'est une nana, je crois, qui l'a fait.
Ah, tu crois
qui... Non, j'en suis même sûr.
Ah.
Qui l'a expliqué, etc. Qui dit, non, it's not CGI, donc computer graphique. C'est vraiment fait avec le moteur du jeu, in-game, etc. Après, c'est probablement le in-game cinématique,
voilà.
Hein, comprenons-nous bien, mais ça veut dire que c'est les polygones gérés en temps réel par la PS4.
C'est quasiment du niveau de Shenmue, je crois.
Là,
si vous êtes premium, alors si vous n'êtes pas premium, forcément, c'est de l'audio, donc c'est un peu compliqué de décrire. Mais enfin, allez sur Gameblog, allez voir la news. Et puis, si vous êtes premium, là, regardez, on la voit en temps réel, là.
Avec
tous les détails. Regarde les yeux, regarde le nez, ça tue la gueule, un truc.
Il est beau, hein.
Non mais j'en peux plus.
Il est beau, c'est
honnêtement, honnêtement, on va avoir une année 2015 quand ils vont maîtriser que ce soit la Xbox One ou la PS4, les entrailles de ces bébêtes. Ça va
c'est
déglinguer.
C'est la numéro 1 celle-ci.
Déglinguer.
C'est la cinquième. C'est
non,
la cinquième.
C'est la
moins
vue. Quand même, ça montre tout l'intérêt que suscite.
Voilà,
Uncharted,
ça prouve une. Parce que c'est une image et ça montre que l'attente, elle est.
Mec, une image, on a tous.
Votre Uncharted, il est moins attendu que The Witcher 3 pour l'instant.
Ouais, mais il a été annoncé depuis vachement moins longtemps. Et pourtant, il est au coude à coude en quelques semaines.
Mais quand même, Uncharted était attendu avant même qu'il soit annoncé.
Oui, voilà, Uncharted était annoncé le jour du 3.
Mais vous savez, pour moi, c'est même pas Uncharted qui est attendu, c'est le nouveau jeu Naughty Dog, en fait.
Ouais.
Maintenant. C'est, à mon avis, c'est ça.
Le nouvel étalon.
Exactement.
Mais l'étalon.
La baffe technique, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi.
Mais regarde, enfant de l'internet, je me rapproche de toi. Elle est où? C'est là.
C'est
ici,
là.
Comme ça, je viens vers toi. Je vais ouvrir les portes des enfers.
Encore
comme ça.
Oh, mais t'as même pas bu un verre, là.
Sur combien de jeux PC on a vu des modèles graphiques de cette qualité? Hein, les PCistes,
ça a même fait
machines à centaines d'euros, etc. Je fais un troll. En conscience, évidemment.
Ouais.
Hein, non, mais blague à part,
tout ça
veut dire l'optimisation, hein, à chaque fois, ça permet de faire des choses quand même prodigieuses. Évidemment, 99% des jeux PC de base, etc., tournent mieux, sont plus propres, machin. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais quand c'est vraiment optimisé sur de l'exclusivité.
Mais ils te feront dire ce que t'as pas dit.
Eh bien,
t'inquiète.
Oui, évidemment. De toute manière, là, ils ont arrêté d'écouter, ils sont déjà dans le forum en train de faire. Et voilà, chiaise, hein, une fois de plus, quel connard. Bah,
ah, bravo, chiaise, hein, bah, je rends mon abonnement premium.
Mais
comme
j'en ai rien à foutre,
hop,
je continue.
Voilà,
hein.
Bon.
Donc c'est beau ce qui nous attend.
Bah évidemment que c'est beau, mais The Witcher 3 est devant pour l'instant. Alors, quatrième, Google Glass, coup d'arrêt brutal pour les lunettes du futur. Bon, on en a parlé à l'instant. Évidemment.
Mais alors par contre, c'est intéressant de voir l'intérêt quand même des gens. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas fasciné par la réalité virtuelle augmentée ou ce que tu veux. Mais il y a un énorme intérêt quand même, en tout cas de voir ce que ça va donner, etc. Et on a fait avec Romain, non, pas du tout, c'était avec Julo.
Non, pas du tout, c'est avec Rami.
Un débat sur HoloLens, on va en parler tout à l'heure. Mm-hmm. Et parmi débat Gameblog, vous savez, il y a un sondage, tout ça, nanana. Et parmi les possibles réponses, il y avait moi, de toute manière, je suis intéressé par les deux. Et bah, c'était 43, plus de 43%. Et si tu additionnais les gens qui étaient intéressés par Oculus, HoloLens et je suis intéressé par les deux, t'étais à 70, je crois qu'il y a que 11% des gens qui ont dit je m'en fiche.
Mais tu vois le truc, c'est que les Google Glass ont toujours beaucoup fait parler de toute façon depuis leur annonce, et il y avait aussi pas mal d'inquiétudes. Moi c'était quelque chose que je revoyais souvent dans les commentaires des gens, c'est que les gens avaient peur que la vie privée soit complètement bafouée à cause de ces lunettes là
à juste titre.
Et oui, parce qu'en plus il y a la peur de Google finalement. Parce que quand tu sais que Google impose un nouveau produit, ça prend des proportions, à part Google Plus, ça prend des proportions incroyables.
Ah oui,
ça
tiens,
devient...
ça aussi, ça aurait pu être mis dans le fail. Ouais. C'était un fail Google.
0,3% des utilisateurs de Google Plus ont mis à jour, enfin, ont fait un post ou un, truc, un contenu public en 2015.
Mais tu vois, finalement.
Moi, supprimé les
mais le truc, c'est que ça tourne vachement sur les, sur les cercles privés, Google Plus aussi.
Mais je trouve que c'est vachement triste, finalement, parce que Google Plus, en termes d'interface et tout, pour le genre réseau social, c'était vraiment pas mal. C'était assez plaisant visuellement,
sauf que
ça marchait plutôt bien, mais
personne n'y va.
Non, mais t'arrives trop tard avec ce truc-là. C'est...
Exactement.
Mais donc, pour revenir au Google Glass, oui, les gens avaient peur que, comme Google propose ce truc-là alors que ça ne leur plaît pas, mais comme c'est Google, bah, ça explose et donc ça devient la norme et donc tout le monde doit s'y mettre, etc. Et les gens pensaient que ça allait être une spirale infernale,
une descente progressive. Une spirale des enfers. Mais oui, mais non, ça a foiré.
Numéro 3. Windows HoloLens, découvrez les lunettes holographiques de Microsoft, on va en parler juste après. Mm-hmm. Numéro 2, c'est le test de Resident Evil, eh ben on va en parler aussi juste après.
Mais ça intéressant aussi de voir, gros intérêt.
Bah bien sûr.
Pour un jeu qui est quand même sorti il y a des dizaines d'années, qui n'apporte globalement à peu près rien, etc. Bah non, les gens ils étaient là à fond. C'est un grand jeu.
Quasiment 20 ans
jeu.
Pour Resident Evil. Et numéro 1, quel est cet article qui a été lu le plus la semaine dernière?
Je sais.
Toi, tu sais, forcément, tu surveilles les chiffres en permanence. Il s'agit des 10 plus belles consoles collector. Ce petit top qui a été concocté la semaine dernière avec, en numéro 1, une console absolument géniale.
Allez voir si vous ne l'avez pas vue.
Ah, qui mérite, mais alors largement le coup d'œil.
Ouais, mais tu sais, je lisais un peu les commentaires. Ouais. Et effectivement, il y a beaucoup de débats. Et ça, c'est aussi un truc qui.
Par rapport
une image
à la beauté des.
Oui, voilà. En fonction des goûts de chacun, les goûts et les couleurs, forcément, tout le monde
on a été plusieurs quand même. Hein,
mais
encore
ça,
une fois,
ça me permet d'évoquer un point, c'est que souvent les gens pensent que la conception d'un top comme ça, c'est le degré zéro de l'information sur Internet et de la qualité de contenu, que c'est un truc super facile à faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, en tout cas, à chaque top, il y a débat dans la rédac.
Bah, c'est 6 mois de travail quand même.
Ouais, 6 mois de travail, des
équipes
à coup
de 250 personnes,
12 heures par jour. Non, mais...
des sondages de la Sofres qui sont commandés en France.
Non mais blague mise à part, c'est vrai qu'on se pose des questions.
Oui.
C'est une...
Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Non mais je... non mais oui, il y a des
débats. On peut pas en placer une chaise, moi aussi je vais arrêter, je supprimer mon compte premium.
Bah vas-y, supprime.
Bon voilà, moi je défendais les tops et tout le monde s'en fout.
Non, mais tu fais bien, mais moi il y a un autre commentaire.
Moi j'aime bien ça.
On adore ça.
Moi j'aime bien les faire personnellement. Le truc qui m'énerve le plus en fait en ce moment, que je lis beaucoup, c'est vous êtes devenu un site à top. Alors je rappelle quand même que les tops, il y en a un par semaine. Juste un. Il y a autant de podcasts que de tops.
Ouais.
Je voudrais pas vous faire chier, hein,
site à
mais...
podcast.
Non, mais voilà, enfin on dit pas que c'est un site à podcast. Donc qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je veux dire,
faites
attention quoi. Il y en a moins de 50. Par an, moins de 50 par an, vous focalisez là-dessus.
Ah ouais, non,
je pense que c'est pas très sérieux quand même.
Ans,
surtout qu'effectivement, ces tops non plus ne sont pas très sérieux hein, de manière générale. Vous pouvez le voir d'ailleurs en découvrant le premier, à chaque fois il y a un petit truc pas très sérieux.
Puis ils sont très évitables, hein, il vous suffit de nonchalamment de ne pas faire votre, de pas donner votre clic, et puis c'est tout. Voilà.
Exactement. Voilà. Et puis après, s'il y a d'autres personnes que ça intéresse, bah, comme ça a été le cas la semaine dernière.
Et puis visiblement, chaque semaine c'est les plus lus, donc bon, si tu veux, voilà. Ça n'intéresse évidemment personne.
Exactement. En tout cas. Même moi, je vous le conseille. Ce top des plus belles consoles collector, celui qui paraît demain, si vous êtes premium, devrait être pas mal non plus. Vous devriez kiffer. Je ne dis ça, je ne dis rien. Allez, on va passer maintenant
zombies.
Au premier thème. Enfin, j'ai envie de dire.
Ah bah, la bonne heure.
Ah oui, parce que vous parlez beaucoup quand même.
Il est déjà
9h. Oui, il est déjà 9h. Tu vas quoi? Tu vas picoler là? Ah non,
non,
je pensais que tu allais prendre une petite lampée.
Bah, tu le dis.
Allez, hop, un petit peu de rhum. Quel est ce premier thème? Maintenant tu as fini, c'est bon, tu as bu ta gorgée.
Attends.
Ah, tu vas te resservir. Oh la vache.
Tiens-moi le micro.
C'est dur, hein. On a...
La bouteille. Le micro.
Le micro. Ah oui, allez, viens
voir. Oh, j'ai le micro de Julien.
À la maison.
Je fais du double,
alors,
du surround.
Fais-le.
Attends. Écoutez.
Ah ouais, il est beau ce bruit. Il est très très beau.
On
il est
se
magnifique.
Refait un coup parce que bon, quand même.
Oh. Ah ouais, il glisse bien et tout, hein, ce petit bouchon. Hein. Ça fait
plaisir. C'est du jus d'orange à l'intérieur.
Oui, oui, à boire avec modération, évidemment. Alors, messieurs, vous étiez là. Moi, j'étais à Varsovie à ce moment-là.
T'aimes bien le répéter
ça. Mais il s'est
ça,
passé.
Hein.
Oui,
comment
parce que
ça raconte le voyageur.
Oui, surtout que Varsovie, c'était la ville la plus triste que j'ai vue encore aujourd'hui. J'ai du mal à m'en remettre. Hein. Poufy aussi. Je crois qu'il pleure derrière ses lunettes.
Poufy,
tellement
on sait
c'est
plus
triste.
Que c'est, hein. C'est Pouf le Guen maintenant qu'on l'appelle.
Heureusement que ce qu'on a été Pouf voir était joyeux parce que sinon. Bon, bref. Cette semaine, Microsoft a fait une conférence dédiée à Windows 10. on n'en attendait pas grand chose finalement de Windows 10, à part quelques petits trucs comme DirectX 12 hein, qui va améliorer grandement
de
les...
50%, hein,
de 50%.
Et la suppression des yeux rouges sur les photos.
Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Donc Windows 10, qui sera gratuit d'ailleurs hein, pour les possesseurs de Windows 8.1. Il y aura une mise à jour gratos pendant un an, même pour Windows 7, hein, je crois.
Pendant un an.
Ce sera gratos pendant
7 et 8,
un an.
Ouais. Je rappelle que chez Apple, c'est gratos point barre.
Des fois non.
C'est gratos depuis l'année dernière.
Ah oui, depuis l'année dernière, parce que j'ai payé 24€ la dernière mise à jour que j'avais faite.
Maintenant, depuis 2 ans,
j'ai payé
Snow Leopard. C'est gratuit.
Je crois que c'est la dernière payance de Leopard.
Bon.
C'est d'ailleurs pour ça que quand Windows, enfin Microsoft l'a annoncé, les gens ont fait, il a fait un petit blanc, tu sais, genre maintenant vous pouvez applaudir et puis. On a entendu. C'était assez... Le début de la conférence, quand même, les trois premiers quarts d'heure ont été assez terribles.
Bon, c'était horriblement assez terrible. Très moyen, mais la fin de la conférence, ça a été la présentation de HoloLens, qui, vous pouvez le voir là, de ce côté-là, si vous êtes premium.
Eh non,
eh bien,
c'est là.
Non, non, c'est par là.
C'est là.
C'est là. Alors, c'est là. Ah oui, mais c'est poufi, il a tout changé. Bref, vous pouvez le voir. HoloLens, c'est cette espèce de. C'est une paire de lunettes vraiment, ouais, c'est pas un casque hein, en tout cas cette fois.
C'est un masque.
C'est un masque. Toi tu penses à un masque plutôt. Un masque, ça fait penser à un truc.
Ça ressemble à des lunettes quand même.
Un truc qui va avec un tuba, tu vois, c'est. Oui, je sais pas, ouais. Bon, bref, un masque de réalité holographique. Alors là, c'est un truc de fou. On se disait que Tupac sur scène, c'était le maximum qu'on pouvait faire. Ou encore, c'est CNN aussi qui avait utilisé des hologrammes façon Star Wars.
Mais tu sais,
je crois, pendant,
pendant
des élections.
Mais même sur TF1, au JT de 20h.
Là, sur le plateau, ils font apparaître des graphiques.
Exactement. L'ami Colaro, à chaque fois maintenant, enfin pas à chaque fois, mais souvent, présente des trucs technologiques ou autres avec, sur le plateau, comme ça, des reproductions 3D holographiques sont vachement pédagogiques.
Ouais, enfin, sauf que c'est, en fait, c'est pas des hologrammes.
C'est du faux.
C'est de la réalité
augmentée.
Mais je me souvenais pas de ça.
Tupac, c'est du faux aussi.
Il y a une carte 3DS sur la table.
Non, Tupac, c'était pas vraiment un hologramme.
De quoi?
Tu pouvais pas lui tourner autour, quoi.
Si, non.
De quoi tu parles? Tupac, c'était projeté.
Ah non, Tupac, c'était projeté sur scène. Je pense pas qu'il fasse quoi que ce soit.
Ouais, c'était un vrai hologramme.
Bah, pourtant, ils disent que c'est de l'hologramme.
Oui, c'est ça.
Mais là, c'est pas de l'hologramme, Microsoft. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est de la réalité. Augmenté.
Ouais, ouais, c'est la réalité augmentée,
volumétrique,
mais avec.
Mais comme toi, tu peux tourner autour
voilà.
de l'objet.
Oui, mais un mec qui a
sensation.
Pas de masque, il voit rien.
Ah, bah, exactement.
Tupac, tout le monde l'a vu. Parce que c'était un hologramme.
Ouais. Voilà. Bon, là, c'est, on le voit quand on a les lunettes, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, à part une érection, Romain?
Bah, moi, je suis fan de tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, etc.
C'est la même que moi. Ça vous a provoqué une érection? Ouais, moi, je suis fan de tout ce qui est.
Et ça m'a provoqué une érection aussi. Mm-hmm. Et clairement, je n'ai pas pu me lever de mon bureau pendant un petit moment. Mais non, je trouve ça plutôt pas mal. Et
C'est pour ça que le coussin est placé comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est
toi,
ça. Et les applications ne se limitent pas aux jeux vidéo en plus. Donc, c'est plutôt cool. Parce que mine de rien, dans ce qu'on a vu, le jeu vidéo ne reprend qu'une toute petite partie du truc. Et ça ouvre pas mal de perspectives de jeu. Et je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est limite un Skylanders inversé en fait, en termes de potentiellement de jeu vidéo, parce que dans Skylanders tu as ton jouet que tu fais apparaître dans ton jeu vidéo, et là c'est ton jeu vidéo que tu fais apparaître dans ta réalité. Potentiellement, je trouve que ça peut être très intéressant.
Et c'est surtout intéressant dans le fait que c'est une machine à part entière. C'est comme si on avait un PC sur le crâne. Alors, j'imagine, je sais pas comment ça va fonctionner pour éviter d'avoir une surchauffe.
Le poids et l'autonomie,
ça va être une
question hein,
mais... Là, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que grâce à Engadget notamment, c'est que les personnes qui ont pu essayer la chose avaient 4 caméras face à elles. Est-ce que ça sera aussi le cas pour la version finale? Bon, pas de fil, pas de PC ou de connexion à un smartphone, etc. Mais s'il y a un Kinect ou deux, peut-être que là, ça va commencer à faire monter un peu la note. Mais bon, en tout cas, on risque d'être libre en y jouant.
C'est très excitant. Après, effectivement, alors même Peter Molineux, quand même. Qui, voilà.
Je suis tellement mal placé pour dire ça.
Ah, je ne finirai même pas ma phrase. Même Peter Molineux a fait attention, il ne faut pas refaire une Kinect. Mais effectivement, c'est spontanément, dans la minute après, c'est ce qui vient à l'esprit. C'est-à-dire, la promesse... fait vraiment rêver. Ça a l'air vraiment top. Mais Kinect, ça faisait vraiment rêver aussi. Ça avait l'air vraiment top. Et puis, la concrétisation finale a été un petit peu plus besogneuse. Donc, on espère que Microsoft, cette fois-ci, sera plus en phase avec la promesse.
Mais voilà, je pense que c'est justement une question de phase. Et avec HoloLens, je pense que Microsoft est plus dans l'air du temps qu'ils ne l'étaient quand ils ont annoncé Natal, qui est ensuite devenu Kinect. Parce que maintenant, tu vois, quand tu sais que Facebook bosse sur la réalité virtuelle, Sony bosse sur la réalité virtuelle. Là, c'est une sorte de dérivé de la réalité virtuelle, finalement, ce que propose Microsoft. Donc, je pense que les gens seront peut-être plus aptes à passer le cap et à s'intéresser à ça que... je parle, quand je dis les gens, je parle des développeurs, etc. Ouais. Plus que,
parce que les développeurs vont commencer à bosser dessus à partir du printemps, si j'ai bien compris.
Bah, en fait, ce sera disponible pour les développeurs au printemps prochain.
Au printemps prochain,
au printemps prochain. Mais...
comprenez qui pourra.
Voilà.
C'est une référence.
Exactement.
Ah bon
ouais. Qui remonte à 2009, E3.
Elle est bonne, celle-là.
Je ne l'ai pas saisie.
C'est de la
non plus, forcément.
C'est
auto-référentiel.
C'est une compile de vidéos où ça.
De
ça
mes
fails
de
l'enchanger.
Voilà. Au printemps prochain et plein d'autres. Socialement parlant, je pense que ça peut être plus acceptable pour certains que la réalité virtuelle.
Ça fait
moins. T'immerges totalement, qui te coupe de ta famille, etc. Là, bon, bah.
De tes amis aussi.
Là, tu vas continuer à voir les gens, quoi. Donc.
Ça te coupe de tout.
Moi, ça m'a immédiatement fait penser. D'ailleurs, je l'ai tweeté hier ou avant-hier, je sais plus. Ça m'a immédiatement fait penser à la scène de Retour vers le futur 2. Où t'as la famille de Marty qui est autour de la table.
Et Marty Junior.
Il y a Marty Junior et la sœur, je me souviens plus de son nom. Ils sont tous les
Martine.
Deux. Ils sont tous les deux avec les lunettes autour de la table pendant que la famille est en train de dîner, mais ils participent au repas malgré tout avec leurs lunettes sur les yeux.
Il y a autre chose à quoi ça m'a fait penser rapidement. Moi, c'était les lunettes qu'utilise. Je me rappellerai pas de son prénom. L'agent du FBI dans Heavy Rain. Quand il décide d'analyser les pièces.
Jayden.
Je me rappelle plus.
Ouais, je sais plus trop.
Moi non plus. Mais je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là.
Jason.
Ouais,
non, c'est
Jayden.
Jayden.
Norman.
Norman.
Norman. Michel.
Norman. Jayden.
Patrick.
Norman. Jayden.
Jean-Luc.
Lui le personnage le plus intéressant de
Bon,
Ray,
bref,
de toute façon.
Lui, quand il
non,
va,
mais c'est exactement ça,
il va dans son monde virtuel pour analyser les indices et c'est à peu près la même configuration, quoi. Il a sa table plate devant lui et les choses surgissent devant ses yeux. Ça m'a fait penser à peu près à ça. Je suis sûr qu'ils sont inspirés de ça en fait, Microsoft.
Évidemment.
Voilà.
Évidemment. De toute façon, avec ces histoires de réalité virtuelle ou réalité augmentée, finalement, la technologie s'inspire de la culture populaire de ces 30 dernières années.
Les voitures volantes, les mecs.
Ah ouais.
Elles arrivent, ça y est, je les sens.
Ça va être le boxon. Hein.
Bah, ça va être cool.
Oh là, ça va être
cool. C'est les overboard qu'on faisait tout.
Il y en a un, ça y est, ils en ont fait,
ouais,
ils en ont fait un fonctionnel.
Ouais, c'est vrai, mais ça coûte la peau du nerf.
Oui, mais c'est encore une première étape.
Non,
c'est,
mais attends,
comme
il
tout,
faut...
c'est comme les ordinateurs. Au début,
non, parce qu'après, on va nous dire oui, mais ça pollue, faut virer en diesel.
C'était un fake ce overboard.
Non, non, non.
Mais si.
Ça dépend de quelle vidéo tu parles. T'as la vidéo avec Tony Hawk qui était bidon, mais le Kickstarter avec le hoverboard à 10 000 dollars ou 100 000 dollars.
Il faut qu'il y ait une plaque en dessous, etc.
Mais c'est, là
ouais,
encore,
ouais.
C'est une première étape.
Ah, oui.
C'est comme les ordinateurs au début remplissaient des entrepôts entiers pour un truc qui n'avait quasiment pas de puissance.
Ouais, c'est sûr.
C'est une première étape.
Et un jour, on y arrivera. Hein.
Mais tu sais, moi, je crois que HoloLens.
C'est pas relou à dire HoloLens.
HoloLens.
C'est un petit peu là.
Mais je trouve ça assez joli. Autant Kinect. Je trouvais ça pas très.
Une allitération.
HoloLens, ça glisse plutôt pas mal. Mais ça va faire du bien en fait à la réalité virtuelle, au global. En fait, toutes ces technologies vont céder les unes les autres. C'est-à-dire, on voit que cette concurrence-là fait qu'il y a une sacrée guerre, que des mecs mettent des millions, des milliards dessus, donc ça va faire accélérer les choses. Mais en même temps, ça va rentrer dans l'esprit du grand public aussi comme quelque chose d'assez important. Il va y avoir tout le marketing, etc. Ça va convaincre des gens pour l'une des approches, plus pour l'autre, mais du coup ils vont s'intéresser à l'autre quand même en disant ouais mais quand même, etc. Enfin, ça va tourner de plus en plus les regards vers autre chose que juste un bête écran de PC ou un smartphone.
C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que ça va pas profiter justement à tout le monde, que ce soit Morpheus, Oculus, ceci, et peut-être que Google Glass, ça se trouve, aurait pu en profiter aussi, hein, s'ils n'avaient pas arrêté avant.
Quand tu y penses, mais oui, Google, je pense qu'ils y reviendront.
Oui, c'est ce que...
Mais je pense vraiment qu'en termes de marketing, par exemple, tu as tellement de campagnes potentielles, tu peux vraiment t'adresser à n'importe qui. Moi, je suis toujours convaincu que la réalité virtuelle, ça va être quelque chose de grand. Mais la réalité augmentée, enfin le HoloLens, est plus facile à vendre, je pense, au public que la réalité augmentée. Parce que je pense à une photo en particulier qui était sur le site de Microsoft, d'une personne dans sa cuisine en train de préparer un plat. Et tu avais
la recette
et les trucs qui apparaissaient grâce au HoloLens à côté de lui. Ça parle.
Quand
ça
faire la bise à ta mère qu'elle a le HoloLens, ça va être chelou, quoi. Tout le monde avec des HoloLens.
Déjà avec nos lunettes, là, on se fait des chocs de lunettes tout le temps.
Oui, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a potentiellement plus de moyens de parler à des gens qui ne sont pas forcément férus de haute technologie, etc.
Et son autonomie, le fait qu'il n'y ait pas de câble, etc., c'est une force
plus simple
indéniable.
D'utilisation,
indéniable.
Clairement.
C'est vrai que ça me rappelle un truc. Vous vous rappelez en 2003, si vous êtes allé au... Il y avait un événement Sony au Palais des Congrès avec
J'y
des tas d'objets.
Oui.
Et dans un qui s'appelait le Q. Ça vous rappelle quelque chose ou pas?
Le Q Samir.
Ouais, c'est quelque chose, en fait, on nous vendait du rêve hein, pour le futur, un espèce de cube ou je sais pas quoi, qui reconnaissait à peu près tout, qui était une espèce de mémoire qui te disait à quoi était liée, par exemple, la matière de ton jean, à quoi, si ça te rappelait pas à un moment, je sais pas, un souvenir, une photo avec quelqu'un, etc. C'était un truc, mais incroyable. Et je me demandais si on commençait pas à y arriver, justement, avec ça.
Accélération technologique incroyable, hein, quand même. Mm. Là, on est au cœur d'un tourbillon créatif, d'innovation. Ça me fait toujours un peu sourire quand j'entends des gens dire « Ouais, non mais c'est bon, on n'avance plus, c'est foutu. » Non mais attendez, si, c'est pas tous les ans, mais si il faut toujours prendre, je sais pas, une décennie à chaque fois. Bah, regardez il y a 10 ans et regardez dans 10 ans où on va être, c'est assez prodigieux quand même.
Surtout qu'on ne sait toujours pas ce que ça va donner si on couple ça avec une Xbox One, par exemple. Hein.
Mais justement, en parlant de la Xbox One, est-ce que... L'arrivée du HoloLens, le HoloLens, ça peut marquer le grand retour, enfin grand retour entre guillemets, du Kinect.
Bah en tout cas, ça marque le retour du père de Kinect,
Kudo Tsunoda
ouais, qui se back parce qu'il travaille sur les HoloLens.
Mais forcément, sur les croquis qu'on avait pu voir, c'est couplé au Kinect.
Ah, les esquisses du Fortaleza.
Oui, ou même celles, parce qu'en début de conférence de Microsoft, ouais, avant même d'évoquer les HoloLens plus en détail, ils ont montré ce croquis qui était une sorte de vision de ce qui allait pouvoir être proposé à l'avenir. Et il y avait un Kinect, si je me souviens bien, sous
ouais, absolument.
Si actuellement dans le prototype, il y a 4 caméras dans la pièce, etc. Kinect, c'est déjà une caméra, et pour les gamers, peut-être que c'est juste sur ta table.
Yo les gamers.
Et ben, ça va pouvoir te permettre de le faire. Et je suis persuadé que pour moi, HoloLens, c'est le nouveau Kinect à mi-parcours de la Xbox One qui va aider Microsoft à arriver avec une Xbox One Slim plus HoloLens et
peut-être refourguer enfin son Kinect.
En tout cas, ça montre plusieurs choses. C'est que ce fameux document Fortaleza, où c'était qu'une des choses montrées finalement,
qui aurait dû arriver cet été normalement, mais en fait
était véridique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont confirmées depuis, et même le croquis diffusé.
Il y a quoi d'autre après?
Après, c'est le tout cloud hein, qui doit arriver. D'accord. Si je me rappelle dans le
parce
dossier.
Que maintenant il suffit de regarder ce qu'il avait marqué d'après, hein.
Mais l'autre chose, c'est que Microsoft sur les HoloLens, ils travaillent, à chaque fois j'utilise un pronom différent, ils ne bossent pas dessus depuis 6 mois. Donc quand ils ont pris la décision de séparer le Kinect de la Xbox One...
Pourquoi tu m'as marqué devant Kinect, ça m'étonne.
Du Kinect.
Ouais, de Kinect.
Kinect. De Kinect.
Ouais.
Sinon on va supprimer les verbes et les trucs comme ça.
Ouais,
on va
aussi, même les phrases.
Non, quand ils ont supprimé Kinect de la Xbox One, ils savaient très bien que HoloLens allait être annoncé, dévoilé dans les mois, genre dans l'année à venir. Et est-ce que ça leur pose pas un problème? Parce que est-ce qu'ils vont être obligés de revendre des packs Kinect plus HoloLens?
Je suis sûr, mais with a revenge. Avec...
Ah ouais, ouais.
Et vous allez la prendre maintenant, bande de cons.
C'est ça, c'est exactement ça. Avis,
chaque pack HoloLens Kinect sera fourni avec une bifle de
Phil Spencer.
Non, de Don Matrick.
Don Matrick qui va revenir triomphant de chez Zynga. Ah bah allez, je vous l'avais dit. Mais non. Non, il ne reviendra pas.
Non, mais c'est une situation, compliquée, mine.
Oh, pas mal, ouais. Ça aurait mérité un petit son, mais là, il est trop loin.
J'ai un petit bémol néanmoins, en tout cas, pas une inquiétude, mais un point qui est très important pour moi, c'est que au-delà du hardware, c'est le software qui fait le succès d'un appareil. Et que la réalité virtuelle, Oculus et compagnie, enfin, je pense surtout à Oculus, il est très facile dans l'absolu de porter un jeu existant, un FPS par exemple, sur Oculus. Pour le rendre meilleur, il faut l'adapter, il faut faire des petites des améliorations, etc. Bon, ok, très bien, mais c'est pas complètement le repenser. Alors que pour HoloLens, ce sera vraiment des développements spécifiques. Il faudra donc
il faut faire des trucs
de l'exclusivité, des studios qui travailleront que là-dessus, etc. Et donc, bah, forcément, ça va limiter. En tout cas, dans un premier temps, parce que les studios vont attendre de voir si ça marche ou pas, si le parc installé se démocratise. Et donc, c'est pour moi la petite, enfin, c'est pas négligeable, un élément très important à voir, c'est est-ce qu'il va vraiment avoir du contenu spécifique d'intérêt et rapidement pour l'alimenter. On l'a vu avec Kinect, l'un des problèmes de Kinect sur la Xbox One, c'est qu'il n'y aurait pas eu tous des amours qu'il y a eu autour de Kinect et des critiques s'il y avait... Enfin, il y avait juste pas de jeu, il y a rien qui l'utilisait vraiment et bien. S'il y avait eu 15 jeux au lancement qui utilisaient vraiment super bien Kinect, qui avaient vraiment eu une plus-value, les gens auraient beaucoup plus accepté.
C'est aussi que les joueurs avaient l'impression que Kinect handicapait la Xbox One de 100€ superflu, quoi.
Mais parce qu'il y avait rien dessus. Enfin, oui, si c'était même, juste même pour si dire des jeux, dans Dead Rising,
les gens voient des bombes. Si t'avais des killer apps,
c'est à l'avance qu'il va pas y avoir des killer apps.
Il y avait beaucoup plus de jeux sur le premier Kinect. Ils étaient pas terribles.
Il y avait des bons.
Il y avait des trucs, quoi.
On sait. Moi, c'était pour la caution grand
public. Black Eyed Peas, t'as kiffé.
Ah bah peut-être.
C'est vrai.
Bah ouais, mais c'était grand public, mais ça fonctionnait bien sur certains trucs. Alors que là, il y avait rien de chez rien. Il n'y a jamais eu aussi peu de jeux Kinect que sur Xbox One.
Mais moi, la question que je me pose alors dans ce cas-là, c'est que là, une fois encore, Microsoft savait très bien ce qui, enfin, ils savent très bien ce qui va être présenté dans les années à venir. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas sortir la Xbox One sans Kinect d'emblée? Donc au même prix que la PS4.
Parce que t'avais un mec à la tête de Xbox qui
voulait imposer.
Parce que si tu la sors sans le Kinect et que au moment où HoloLens est prêt et que tu sais comment tu vas l'utiliser sur Kinect, là tu fais une présentation magistrale où tu montres les commandes vocales sur Xbox One, tous les trucs, plus ce truc-là, là les gens se disent, ils sont pas obligés de l'acheter.
Ouais, mais il avait une conviction. Cette conviction, c'était de tout unifier, de parler à
ta télé. Mais
une
conviction portée sur pas grand-chose, c'est ça le problème.
Mais lui, il s'est dit, on va bouleverser les usages. Les gens, ils vont parler à leur télé, change de chaîne, affiche-moi le menu, bidule. Et donc, il faut pas que ce soit un accessoire. Malheureusement,
mais
ça
pour les gens, ils ont lancé la console alors que c'était même pas fini, ça.
Bah ouais.
Et pour les gens, ça vaut pas 100€.
Enfin, pour la France, en tout cas.
Parce que pour beaucoup de gens, ça reste de l'accessoire totalement dispensable. Et donc, un accessoire totalement dispensable qui te fait payer 100€ plus cher, c'est compliqué. Alors que tu sors.
Mais
ça
pourquoi
dans,
est-ce que
dans
pourquoi
deux
est-ce
ans
que vous liez à ce point-là le Kinect et HoloLens? Parce qu'il y a pas de raison de les lier en fait.
Bah, a priori, il faut.
Si
les caméras.
Parce qu'on a la même crainte.
Ouais, mais je sais. Mais si t'as un Kinect, tu te dis bon, bah voilà, ça peut servir de caméra. Mais je pense pas qu'ils vont le vendre avec Kinect pour autant.
Non,
plutôt faire des petites caméras que tu pourras caser dans les coins de ta pièce.
Mais parce que sur toutes les
et qui seront sans fil ou qui fonctionneront
avec
pile.
Mais il y a les images qu'ils ont montrées. L'image qu'ils ont montrée avec HoloLens, t'as une Xbox avec un Kinect.
Oui, mais parce que si t'as une Xbox avec Kinect, ça t'évite, peut-être ça améliore l'expérience, etc. Mmh. Mais c'est pas un accès. Contrairement à Kinect, à l'époque de la Xbox 360, HoloLens, ça va pas être un accessoire pour la Xbox One. Ça pourra être un accessoire pour la Xbox One, mais ça sera au-delà de ça un hardware unique qui pourra être utilisé sans avoir forcément autre chose à côté.
Mais n'oublie pas que sur PC, Kinect existe aussi.
Oui, mais donc après, c'est pas du tout la même démarche. Là, il crée un nouveau hardware. Qui vise le grand public, etc. Et dans l'écosystème complet Microsoft avec Windows 10, la Xbox One, etc., il y aura des liens, mais c'est pas un accessoire de la Xbox, c'est vraiment au-delà de ça. De manière secondaire, ça peut être un accessoire pour la Xbox.
Voilà, mais s'ils décident de l'utiliser avec la Xbox One,
là, Kinect pourra servir.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est juste par rapport à ça.
Voilà,
parce que moi, c'est juste pile par rapport à la Xbox One.
Parce qu'au-delà de ça, leurs destins sont pas liés, quoi.
Non, mais là, je parlais purement en termes de jeux vidéo sur Xbox One, hein, c'est tout.
Très bien, messieurs, on va passer un peu à du zombie parce que c'est bien beau les hologrammes, mais
changement de thème.
On change complètement de thème.
On a pas un son pour marquer les changements de thème.
Changement de thème,
c'est plus la même chose.
Donc on pourra faire ça si tu veux. Non, mais on mettra
pour
des sons.
Que les gens
ça évoluera. Sages. Rappelez-vous, on vous l'a dit au début.
Les peintures sont pas fraîches.
Exactement.
Sont pas sèches, plutôt même.
Resident Evil, le numéro 1, le premier, à jamais dans nos cœurs.
À jamais les premiers.
Voilà, sorti en 96, refait pour la GameCube et même reporté ensuite sur Wii, si je me rappelle bien. Et
oui.
Oui, absolument. Et donc là, il est arrivé sur PS4 dans une version HD toute belle, toute propre.
Et pas que PS4, hein. Xbox One aussi.
PS3 pardon.
Aussi.
Ouais. C'est vrai, Xbox 360.
360 tous.
Voilà. Il y a pas le PC dans les.
Je ne crois pas qu'il y ait le PC.
Si, il y a le PC.
Et donc 20€ depuis cette semaine.
Ouais. Écoute, moi j'achète.
Ah, alors j'allais poser la question.
Mais moi je l'ai pas refait 15 fois, etc. Tu vois, j'ai fait une fois sur PlayStation quand il est sorti, une fois sur GameCube quand il est ressorti, parce que là c'était un nouveau jeu, quoi, franchement.
Ah, oui.
Et là, parce que c'est justement cette version là qui avait été complètement refaite et qui était magnifique, qui en plus en HD, passé en 16:9,
avec
etc.
Virgule,
et puis il n'y a pas de jeu en ce moment, alors bon, il faut bien jouer à
quelque
chose.
Non, mais je sais pas, mais j'aime tellement ce jeu. Ouais. Je trouve c'est mon préféré, hein, de toute la série.
Nul! C'est le 3 le meilleur.
Mais non,
mais bien
c'est
sûr
le
que
1,
si
c'est
le 3.
1, 1 point, c'est tout. C'est,
mais le 1,
c'est
il est sympa, il est bien, il est arrivé au bon moment.
Non,
tout
mais attends,
ça,
le 3 il est génial, mais fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ils sont partis.
Code Veronica est vraiment pas mauvais.
Moi, choisir un Resident Evil, c'est comme choisir parmi mes enfants.
C'est mon 3ème préféré après le 4, effectivement.
Mon ordre, c'est 1, 3, ton 1,
4 et Code Veronica.
Oh là là là, je suis entouré par des gens qui n'ont pas de goût. C'est abominable. Non, mais je mets le 3. 3 est largement meilleur
mais
que tout
fait,
ça.
Tout le monde a testé
le 3, il y avait
mais...
même les esquives, il y avait des moments où on faisait des choix.
Bon, ouais.
Et putain, cette flip tout le temps, tout le temps. 3, tout
le 3 était, je trouve, méchamment critiqué à sa sortie et il est bien meilleur
tu
que
rigoles,
ce que les gens
il a été encensé.
Moi, je me souviens de tests très moyens.
Non,
disait
pas sur Joypad.
C'était de la repompe. C'était de la repompe
sur Joypad. Oui, mais les gens, c'était le début des gens qui n'aimaient plus rien.
Ouais, non, parce que là,
c'est pas toi qui l'as testé sur Joypad.
J'avais beaucoup aimé.
Mais t'as moins aimé que les autres.
Ah oui, mais enfin, parmi l'excellence.
Ouais,
quoi,
voilà,
c'est comme
ça.
Si tu allais dans des restaurants.
Non, mais non, parce
de
que
ouf, tu manges des plats incroyables.
Parce que vous, non, parce que vous étiez déjà dans le milieu à ce moment-là.
Moi, j'adorais.
Moi, au moment
adoré.
Où Resident Evil 3 est sorti, j'achetais
moment.
Tous les magazines. J'ai acheté tous les magazines à l'époque et je me souviens, d'ailleurs, j'avais été étonné.
Mais ton préféré, c'était Joypad quand même.
De voir que les mon préféré.
Oui, Romain.
Non, je vais être totalement franc. Moi, le magazine que je lisais en priorité quand j'étais gamin, c'était Player One.
Oh non.
Oh là 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 là, bordel. Poufy. Tu peux préparer le chèque pour Romain.
Mais une fois encore,
tu peux le cadrer, mais genre à moitié. Tout
une,
temps.
Fois, une fois encore, je lisais tout. Je dépensais.
Change
donc
les
voilà. Ce plan est parfait. On peut rester sur ce plan. Voilà. Le podcast, on continue. Alors, bon les gars, comment ça va aujourd'hui?
Player One. Eh ben dis donc.
Bon, vas-y Romain.
Non,
on te
Player One.
Mais bien sûr. Non, je dis juste, je me souviens bien de tests qui étaient loin d'être élogieux pour Resident Evil 3.
Moi, j'ai pas le souvenir justement.
Et quand j'y ai joué, pour le coup, je me suis dit merde, qu'est-ce qu'il en faut
pas des consoles.
Resident Evil 3, ça devait pas être Resident Evil 3, ça devait être un spin-off de Resident Evil, puisque Resident Evil 3
d'où le Nemesis d'ailleurs, parce que
devait être le Resident qui était fait par Camilla, qui s'est transformé à un moment, qui prenait tellement de retard, parce qu'en fait, comment il s'appelle ? Ouh là là, le trou de mémoire de l'espace.
Qui ça ?
Mikami, excusez-moi. Mikami avait donné carte blanche à Camilla, tu fais le Resident Evil que tu veux. Il faut pas dire ça à Camilla. Donc il est parti dans son délire. Ça a pris énormément de retard. Un petit peu d'embrouille chez Capcom. Panique. Bon, toi, t'étais en train de faire un spin-off. Ok, ça va devenir le 3. Et tu dois le finir très vite. Pendant ce temps, Camilla, il y a continué. Ça devait donc devenir Resident Evil 4. C'est pas non plus devenir Resident Evil 4, mais Devil May Cry. Enfin, voilà l'histoire. Quoi.
Ah oui, c'est vrai pour Devil May Cry que ça aurait dû être Resident
Evil
4.
Mais donc, Devil May Cry, à la base, avant d'être même Resident 4, devait être Resident 3.
Wow.
Il y a eu beaucoup d'itérations.
Mais ça, c'est grâce à Camilla, tout ça.
Et effectivement, le 3 est l'un de ceux qui innove le plus.
Ah, bah bien sûr.
Avec
il
beaucoup,
innove
beaucoup
le plus, il est super flippant.
Ouais, l'esquive.
Les choix, les lives.
Ouais, c'est ça. Tellement plaisant quand tu commençais à maîtriser un peu le gameplay et que tu affrontes de... Enfin, que tu cherches pas à fuir le Némésis. Quand tu maîtrises bien l'esquive et que tu lui mets la misère, ça fait bien,
mais
ça fait bien plaisir.
Et puis la fausse fin. Moi, j'avais trouvé ça génial. Il y a quand même un moment... Bon, là, on peut spoiler, c'est un jeu qui est quand même...
Je m'en rappelle pas.
Moi non plus.
Bah, non, mais c'est pas vraiment une fausse fin, mais on te fait croire que... Il y a une séquence d'explosion, genre nanana, comme dans tous les Resident Evil et tout. Boum, tu bastonnes le Némésis, il est mort.
Avec le fameux compte à rebours.
Voilà, machin. Tu sors de l'église et tout. Il y a la musique de fin, genre... Ta-na-na, qui marche en courant et tout. Puis là, il y a l'hélicoptère qui est en train d'arriver, comme dans tous les Resident Evil. Et là, il y a un vieux missile qui lui passe derrière, comme ça.
C'est le Némésis
qui est là, bam. Et c'est reparti.
Ouais,
j'ai envie de rejouer à Resident Evil 3.
Ouais. C'était mon seul but, c'était de vous faire.
Et la musique change.
J'ai envie de retourner sur Resident Evil 3, qui est le meilleur Resident Evil.
On a parlé de tout
sauf du
1.
Bon,
mais parce que le
pour résumer cette nouvelle version, donc est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui d'acheter cette version qui a donc été retouchée pour passer en 16/9 si je ne m'abuse et qui a une maniabilité.
Tu choisis.
Si tu veux
choix.
Mais alors moi il y a un truc qui me déçoit un petit peu à ce niveau-là, mais je ne l'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, c'est pour faire du 16/9, on a zoomé dans l'image, on n'a pas recréé de la matière.
Mais non, alors en fait j'ai bien vérifié et je serais pas
catégorique
sur tous les plans, c'est-à-dire que clairement il y en a certains, il y a de la matière en plus.
Alors peut-être
et
que
je sais pas comment ils ont fait,
peut-être que
et
sur certains assets ça avait été dessiné plus grand à la base, mais quand tu choisis au tout début du jeu entre le 16/9 ou le 4/3, sur les deux images côte à côte, tu vois bien que le 16/9 c'est zoomé en fait.
Mais il y a des endroits, j'ai vraiment repris le truc. Et sur la GameCube, machin, genre, tu vois, les chandeliers, tu voyais genre trois branches du chandelier. Et dans la version là, PS4, Xbox One et compagnie, bah t'en vois quatre.
Donc il y a du retravail.
Mais pas partout. Et il y a certains endroits, effectivement, ça a l'air d'être juste.
En tout cas, je vais hésiter au moment de commencer ma partie, tu vois, parce que je n'ai pas encore commencé.
Ouais, mais c'est 9 quand même.
Mais tu vois, le
4/3, ça fait un peu bizarre avec les bandes noires.
Et cette autre maniabilité dont on m'a parlé.
Pas terrible.
Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une maniabilité à Resident 6?
Moi,
on peut shooter en même temps qu'on marche?
Non.
Mais non, c'est pour aller dans la direction que tu pointes, c'est tout.
J'ai commencé à jouer avec la nouvelle
jouabilité. Justement, parce que ça, c'est la jouabilité à l'ancienne.
Non, à l'ancienne,
tu allais vers
le
haut pour
avancer
et tu tournais.
Oui, c'est ça.
Bah là, t'as, là, si tu vas,
là, direction
que,
à l'écran.
Si tu vas aller en haut de l'écran, t'as pu vers le haut, bas de l'écran, okay. vers le bas.
Alors peut-être.
Bon, enfin, ça, ah, moi, c'est génial, ça. Moi, je suis
très confusant.
Par contre, le deuxième stick, je rajoute quasiment rien. Ça te fait faire un demi-tour très ouais. rapide. J'utilise pas quasiment.
Honnêtement, je veux rejouer à Resident Evil avec des graphismes d'aujourd'hui, enfin assez propres pour aujourd'hui, et me refaire le délire de ces personnages, cette ambiance, ces musiques.
Surtout que c'est pas exactement le même jeu que celui qui est sorti en 96.
Non, c'est
le meilleur. Je connais pas.
C'est le meilleur remake de jeu vidéo de l'histoire du jeu vidéo. C'est le maître étalon du remake, c'est-à-dire ce que ça devrait être un remake, pas une remasterisation.
Ah, enfin, mais là tu parles de l'édition GameCube.
Oui, je parle de la GameCube.
Parce que là, c'est le remake d'un remake.
Oui, alors celui-là, il apporte
un peu de rien. C'est pas vraiment un remake là pour le coup. Parce que
là, c'est
une
remasterisation.
Non, c'est la remasterisation HD d'un remake.
Voilà.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui,
non, mais ce que je veux dire, c'est que le Rebirth initial, celui qui est sorti sur GameCube, c'est ils ont revisité totalement Resident Evil. Il y a carrément des pans de scénario en plus, des lieux
trucs qui
ne
sont
pas
au même endroit.
Ah, mais c'est exactement ça. Moi, le premier version PS1, je le connais par cœur. Quand j'y jouais régulièrement, j'arrivais à le terminer en 1h40 à peu près. Et là, celui du GameCube, je ne l'ai fait qu'une fois au moment
Que tu le connaissais comment?
Hein?
T'as dit que tu le connaissais comment?
Je connaissais comment quoi?
Tu as dit que je le connaissais par cœur, c'est ça? Parce que je voulais te demander, Gus, tu connais Charlie Mingus? Là, tu connais pas la suite?
Non.
C'est par cœur, je le connais par cœur. C'est une chanson de Michel Jonas. Tu devrais la connaître.
Ah oui, par cœur, je connais par cœur.
Voilà,
ouais.
Exactement.
Et le.
Oh, t'es mis vachement bien, Michel Jonas.
Ça, tu es vachement bien, Michel Jonas. Tu pourrais me faire le générique de Zone Interdite, vite fait là?
Non, non, non. Il faudrait que je travaille un peu avant.
Zone Interdite?
Oui, c'est lui qui fait Zone Interdite.
C'est lui qui chante, ouais.
Qui fait Zone Interdite, Zone Interdite.
Ah bon? Non, c'est une blague.
Bah non, c'est lui.
Ils ont pris Michel Jonas pour faire ça.
Mais c'est lui qui a composé le truc, quoi.
Mais pas l'émission.
Ah si? Bah si, le générique de l'émission, c'est Michel Jonas.
Non,
non, c'est vrai.
Bah non, c'est vrai.
Pour faire Zone Interdite.
Bah oui, avec le petit air de jazz derrière.
C'est le pote du producteur.
C'est la classe. Attends, t'imagines, nous, si on demandait à Michel Jonas de nous faire le générique des podcasts, faut lui demander.
Non,
ça David
Guetta, plus actuel.
On a déjà Poufi Guetta derrière ce platine là-bas.
Podcast de Gameblog.
Non, mais pour revenir à ce que je disais, c'est que la version PS1, je la connais par cœur. Je peux tracer dans tous les sens. Celle du GameCube, je ne l'ai fait qu'une fois. Et là, donc, je recommence sur New Gen. Et je suis complètement paumé parce que là où je pensais trouver une clé, en fait, je trouve autre chose. Les ennemis ne sont pas placés pareil. Et effectivement, tout ce qui est lié à Lisa Trevor qui n'existait pas du tout sur
Lisa
PS1.
Trevor. Et c'est mortel. Ah bah oui.
On parle de Lisa Trevor dans cette version-là.
Ah bah bien sûr.
Ah oui.
Bah c'est là où
tu la vois
en fait.
Même.
Et ouais.
Ah bah, il se passe des choses. Je l'ai pas fait moi dans Rebirth.
Tu l'as pas fait Rebirth?
Je n'ai jamais
fait.
Voilà.
Mec, c'est la tuerie.
Quand tu montes l'escalier dans la salle principale l'entrée.
Tu peux pas monter sur le côté. Enfin,
oui non c'est derrière non mais ce que je veux dire il y a aussi l'escalier qui monte directement à l'étage. Maintenant au premier palier on va dire t'as une porte qui te mène à l'arrière du château à l'extérieur. Toute cette zone là qui n'existait pas sur PS1.
Tout comme sur PS1 à l'époque ou pas?
Ouais. Enfin, elle est refaite. Hein.
Non, mais la série Z,
elle est en cinématique, etc.
Il y a un trou du monde.
Mais justement, derrière Chris l'escalier Redfield. De la première salle, hein, du hall d'arrivée, quand sur PS1, tu pouvais passer derrière, puis il n'y avait strictement rien. Là, il y a des grilles qui descendent dans les caveaux du manoir, et quand tu te ramènes la première fois, tu ne peux pas les ouvrir, mais tu entends. Et qui est-ce, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est très Silent Hill.
C'est Barry qui dessoule, non?
Non.
Et non, et certains.
Il y a un peu de Silent Hill dans cette version.
Certains de tes jumpscares que tu pouvais avoir sur PS1 ne se placent plus de la même manière.
Les toutous sont plus au même endroit?
Non, mais franchement, j'aimerais bien être à ta place, Plumeau, parce que le découvrir maintenant, tu vas te faire dessus.
C'est
que
moi, nouveau lieu.
Oui, mais t'as bien vu quand on a joué à Pity.
Ça fait beaucoup, beaucoup moins peur.
Ah, moi, je trouve qu'il fait peur, Resident Evil.
Ouais, moi, je trouve qu'il
fait peur.
Moi, je trouve que c'est le 2 qui fait pas peur.
Pity m'a rien fait.
Le 2 m'a jamais fait peur non plus.
Mais il est cool, le 2 quand même.
Il est très cool.
Moi, j'aime
bien. Mais il est très action, quoi.
Mais ça vaut pas le 3.
Non, mais Pity est terrifiant. Là, Resident Evil, sur les chiens, de la peur.
Oui, mais les chiens, quand on les a découverts, on était tous au même niveau à ce moment-là.
Dans ce cas-là, quand tu vas au ciné, tu ne vas plus voir que des chefs-d'œuvre parce que tous les autres ne sont pas au niveau.
Bah oui, c'est ça.
C'est vrai que l'ambiance de Resident est extraordinaire, mais les zombies ils sont un peu lents, ils avancent machin.
Ouais, enfin, c'était là les Hunters qui arrivent, c'est la panique.
Fais-moi la danseuse quand
les Crimson Head.
Oui, alors justement, ouais, les Crimson Head, toi tu l'as jamais fait?
Non, j'ai
jamais fait. Maintenant,
parce
il faut brûler les zombies.
Gameplay, il y a des choses totalement nouvelles.
D'accord.
Il y a des portes qui peuvent se casser avec des trucs et machin. T'as des poignards que tu peux planter si tu te fais choper, des petites grenades à mettre.
Ouais.
T'as des zombies qui se réveillent.
Il faut les brûler. Donc, si on résume.
Ah bah si tu l'as pas fait, c'est
totalement
indispensable.
Bah voilà,
indispensable.
Je me place du côté des personnes qui ne l'ont pas fait.
Mais c'est un jeu.
Si t'as fait que la version PlayStation et pas la version GameCube, il faut absolument faire.
J'ai fait la version DS aussi, je me rappelle.
Non, mais la version DS, c'est la même que la version PS1. Oui, Deadly Silence.
Oui, voilà.
Non, c'est PS1.
Ah oui,
mais voilà. Mais c'est la version PS1, mais un peu. Bon,
avec quelques scènes au stylet à la première personne.
Bon, et puis alors, il faut quand même noter un truc, on parlait des portes il y a deux secondes. Ils ont eu la très 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 bonne idée de ne pas supprimer les temps de chargement.
C'est essentiel.
Ils sont pas des temps de chargement d'ailleurs.
Mais parce
qu'ils étaient peut-être avant, mais qui sont devenus cubes parce que ça génère du stress.
Si j'aurais pu les raccourcir un tout petit peu quand même. Parce que bon, t'en ouvres beaucoup des portes.
Ouais, mais bon.
Beaucoup.
Tu veux du stress, bien, hein. Mais toi, t'es un impatient.
Moi, je trouve que ça rajoute au stress. Moi.
D'ailleurs, on va l'installer ton PC après. Tu vois.
Fais pas ça, me flingue pas mon week-end.
Surtout qu'il y a des nouvelles portes, etc. Donc, tu sais pas forcément pour toi, par exemple, qui n'a pas joué à cette version. Mais il y a de nouvelles portes. Et donc, avec ce système d'ouverture lente, bah, tu sais pas ce qui t'attend derrière. Et donc, ça contribue.
Comme les boîtes
ça
de chocolat dans Forrest Gump.
Mais par contre, ça m'a... même si je vais pas pouvoir trop rentrer dans les détails parce que je suis sous embargo, mais j'ai pu jouer. Ah, Resident
Evil. Ça tombe bien, je voulais qu'on parle des autres survival.
J'ai pu jouer à Resident Evil, donc
Rebirth
et à Revelations 2 dans la même journée. Et quand les producteurs disent que Resident Evil Revelations, c'est le pan survival horror de la série, j'ai quand même beaucoup de mal à le croire. Parce que Resident Evil,
c'est parce que
premier du nom, c'est un jeu que je connais très bien.
Vous commencez à ouvrir les yeux sur Revelations.
Non,
c'est
Revelations était top.
Moi, j'avais bien aimé Revelations.
Oh, oui, pour un jeu sur console portable, c'était un très bon Resident Evil. Mais il était clairement plus action d'autres Resident Evil, mais il mariait bien les deux.
Le truc, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Revelations, peut-être un petit peu moins que Resident Evil 6, mais ça reste un jeu principalement action.
Bien sûr.
T'as peur à aucun moment, tu sursautes parce qu'il y a des jumpscares, mais sinon, t'as pas cette angoisse permanente, cette peur de ce que tu vas croiser, etc.
Non, t'as juste l'angoisse de la scène d'action qui dure 10 heures, et tu fais « bon, quand est-ce que c'est fini avec les loups ?» Merci. Quand est-ce que c'est fini avec les Hunters Invisibles là? Parce qu'il y en a 30 que j'ai buté à la suite, j'en ai un peu marre. Merci. Voilà, c'est exactement ça.
Oui, c'est vrai qu'il y avait peut-être quelques scènes où il y avait trop d'ennemis, trop de shoot. Mais c'est ce que je dis. Contrairement à ce que Capcom essaye de nous faire croire, Revelations, c'est plus trop du survival horror.
Non, les Hunters Invisibles, je crois que c'est mon moment préféré de Resident 4.
C'est pas de Hunter.
Ah, c'était pas de Hunter.
Non,
c'est les Espagnols.
Non, c'était des espèces de grandes créatures comme ça qui avaient les bras très très mous, qui crachaient dans le crâne et qui te faisaient fondre le cerveau.
Mais la première fois que tu les vois, t'es dans les égouts comme ça, et puis toi tu marches, ça fait ploc ploc quand tu marches, et d'un seul coup t'entends plus rien, tu continues à avancer, et là d'un seul coup t'entends ça convertit à
non, mais je comprends bien ce que veut dire Plumeau, c'est que c'est vrai que dans Revelations par exemple, je me souviens de passage dans le bateau où ça n'arrête plus.
Revelations,
c'est pas ça,
t'as vraiment les deux.
En fait,
t'as les, bah justement, moi je trouvais que c'était pas mal parce que t'avais vraiment les séquences
pas le mal,
pour
c'est
les fans de survival un peu plus posé où il se passe pas grand chose, mais t'es dans l'ambiance. Et puis les séquences vraiment clairement action. Donc bon, il y en avait un peu pour les deux quoi.
Ouais.
Et même si je peux pas
gros, c'est pas le plus grand Resident Evil.
Je peux pas en dire plus. Ils ont ajouté un truc dans Revelations 2 qui ne sera accessible que dans une partie de l'histoire, mais avec un des personnages qui limite encore plus la surprise et la peur finalement.
Mais ça a l'air cool quand même les séquences avec Barry.
Ah, moi j'aime bien.
Avec la petite fille et tout.
Ouais, justement, j'en dirai plus la semaine prochaine.
Ah okay. Si tu
on en
embargo,
reparlera très
on
prochainement.
On en parlera pas maintenant. On va se pencher un peu sur le cas d'autres survival qui vont arriver dans l'année. Je vais vous en citer trois. Très vite, il y a Dying Light d'abord. Alors Dying Light, c'est assez particulier. Il doit sortir le 27 normalement, mais Techland nous annonce que en Europe, en Australie, au Moyen-Orient et que je dis pas bêtise, en Asie, et ben c'est niette pour les versions boîte. Ça arrivera
un mois
le
après.
27 février effectivement.
28.
Le 27 février
pour
les versions boîte sur PS4 et Xbox One.
Oui,
et par contre, le 28 janvier effectivement, téléchargement sur toutes les plateformes en Europe. Le 27 pour les États-Unis et pour l'Amérique
alors
du Sud.
Alors eux dans toutes les versions.
Ils ont tout.
On s'en fout là.
Ils
France,
ont droit
au
physique, ils ont droit au dématérialisé. Mais alors que nous, bah voilà, mardi 27, c'est Steam quoi qui va nous fournir tout d'abord une version dématérialisée.
Mais alors ça a l'air bien ou pas alors? Parce que t'as
parce
eu
que
un
essayé...
avis un peu contrasté, puis tu.
Bah alors ce qui s'est passé.
D'apprécier plus finalement.
Je vais vous dire tout les yeux dans les yeux.
Vas-y, t'es un fou.
Les yeux dans les yeux à nos lecteurs. Quand je l'ai essayé à la rédac. On est venu me faire chier à chaque fois que je jouais à ce jeu. Et c'était très difficile de se concentrer. Vraiment. Même Papayou, que j'adore, hein. Salut Papayou, qui était venu me parler et tout. Ça, c'était impossible de me concentrer. De
quel
pouvoir...
manque de respect.
Ouais,
incroyable.
Non, c'est juste pour faire un bisou à Papayou en fait. C'est tout.
Papayou.
Et donc, Y avait, je sentais un potentiel, mais j'arrivais pas à bien l'accomplir à la rédac, de fait, parce que l'environnement ne s'y prêtait pas. Chez moi, une fois que je suis rentré chez moi, honnêtement, je me suis plongé dans le jeu beaucoup plus, et je reconnais que même si ça réinvente pas la roue, il y a des très bonnes choses. Le côté Mirror's Edge est vraiment super bon. Alors, je dirais pas que l'IA des ennemis est super, mais c'est vrai que quand la nuit tombe et que t'es encore dehors, bah t'es vraiment. Mais t'es
Chiflip.
Dégoûté parce que là il peut te tomber n'importe quoi
sur la
tranche.
C'est un peu le concept de base du jeu d'ailleurs, la tombée de la nuit.
Ça marche très très bien parce qu'au niveau de la flip,
c'est un peu le nom du jeu quoi.
Ouais, la lumière qui est
mourante.
Ouais, qui me rentre. Ouais.
La lumière qui est mort.
C'est le début de la nuit quoi.
Voilà, exactement. Bah, c'est la fin du jour. De ce côté-là, ça marche très bien. Après, la petite carte que j'ai eu pour l'instant était pas très, c'était vraiment pas grand, il y avait pas beaucoup de crafting à faire, il y a pas beaucoup de choses à faire encore, même en mission secondaire, donc j'attendrai d'avoir la version test.
Techniquement, ça c'est à quel niveau?
Techniquement, c'était bon, c'était pas génial mais c'était bon.
Visuellement, enfin quand je t'ai vu jouer, je trouvais que c'était, en termes d'environnement etc, c'était plutôt correct.
Ouais,
mais t'as l'impression de jouer à un jeu d'ancienne génération en termes de mouvement, de déplacement etc.
Peut-être, oui.
C'est toujours, tu sais, les coups de, par exemple un coup de marteau ou un truc comme ça, c'est
c'est toujours aussi sec, oui.
C'est les mouvements bizarres, je trouve ça fait un peu archaïque, moi, tout ce truc-là.
Bah peut-être. Il avait été développé aussi sur PS3 360. Après, ils ont fait un switch en annulant ces deux versions-là. Peut-être qu'ils ont commencé là-dessus, puis ils se sont dit bon, on va l'upgrader un peu visuellement, et puis hop.
T'as l'impression de te retrouver toujours avec des ersatz de merde, comment il s'appelait, Left 4 Dead.
Ouais.
T'as toujours l'impression que ce sont les Gremlins qui ont été mouillés, et donc t'as les autres jeux qui sortent de Left 4 Dead comme ça. Et
putain, quelle image.
Ouais.
Incroyable.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Vraiment, non, bravo.
Tu vois la scène de Gremlins maintenant, mais voilà, t'as mouillé Left 4 Dead et il y a plein de jeux qui pop comme ça, un peu différents à chaque fois.
Mais bah là, c'est du monde ouvert. Left 4 Dead,
c'est l'image est super, mais c'est sévère. Parce que Dying Light, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose avec ce principe de journée quand même. Parce que quand tu te balades de jour et que tu poses tes pièges, etc., et que les zombies sont juste à deux de tension et tout,
ouais, le jour,
t'étais
ça
pas
va
en flip, etc. Et effectivement, voir la nuit tomber et tout, ça te met vraiment en stress.
Ah oui, non, je dis pas le contraire.
Et c'est là que le jeu se transforme en Mirror's Edge. Parce qu'avant ça, c'est pas du tout Mirror's Edge. Et tu dois utiliser le côté Mirror's Edge du jeu à partir du moment où t'es coursé par des zombies, mais qui vont vraiment super vite. Et où tu dois du coup rentrer dans des maisons, sortir, monter des échelles, etc. Et savoir qu'à chaque coin, à chaque endroit où tu peux tourner, tu peux tomber sur d'autres zombies. Et donc faire demi-tour et en avoir d'autant plus encore derrière toi, et au bout d'un moment t'as une horde de zombies derrière toi.
Il faut voir qu'ils sont très résistants.
Ah mais l'idée est très bonne, hein. Je disais, moi, ma réflexion.
Et l'objectif, c'est de rentrer à la base, parce que la base, c'est l'endroit où c'est safe, et littéralement c'est une course
pour ta vie quoi.
Ouais, mais ma réflexion se basait juste sur l'aspect technique que j'ai vu quand Plumeau jouait.
Technique, ouais. Après,
moi j'ai fait que des petites démos, donc je sais pas.
Visuellement, en termes d'éclairage, des effets, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas révolutionnaire, mais c'est pas mal. Mais bon.
Il y en a d'autres en plus cette année. Enfin, c'est une année quand même assez riche.
Oui, il y en a d'autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi Until Dawn, mais qui lui sera plus un jeu d'aventure.
C'est horrifique, quoi.
Ouais, voilà. C'est un jeu de film d'horreur.
Voilà, exactement. C'est un jeu de slasher, une simulation de slasher movie, un peu plus aventure, mais il y a aussi Dread Out,
ça va être cool.
Qui lui existe déjà sur Steam, mais qui va arriver cette année sur PS4.
Dread Out.
Ouais, Dread Out, c'est une sorte de Project Zero en fait, mais là on n'aura pas un appareil photo.
Flippant, Project Zero.
Tu veux dire que c'est japonais dans l'approche?
C'est pas un appareil photo à l'ancienne, je crois que c'est un Nokia, hein, que t'as dans la main, et c'est à peu près le même style, ça fait partie des petits jeux là comme ça qui vont sortir.
Ah oui, d'accord, pas du tout de l'ambiance, c'est pas à la japonaise.
Non, je crois pas. Enfin, je suis pas sûr. Après, j'y ai pas touché. Moi,
Project
sur,
Zero, moi, c'est vraiment celui qui m'a le plus fait flipper de toute ma vie.
Effectivement. Enfin voilà, c'était les quelques jeux que je.
C'est vrai que si j'en crois les images que Normand Premium sont en train de regarder, ça fait un peu japonais. Hein.
Ça fait un peu japonais, effectivement.
Ça fait un peu Project Zero, quoi.
Oui, c'est vrai, effectivement.
Mais tant
un petit peu, mais j'ai pas joué, donc je pourrais pas te confirmer tout ça, mais bon, en tout
avec
cas, ça
un petit relanc de Deadly Premonition.
Ouais.
Ah bah dis donc.
Et là, je sais pas comment il faut l'interpréter.
Ah, tu veux dire parce que ça fait
un peu vieillot, hein, mais
ouais,
bon.
Ouais, bah ça te plaira, Julo.
Voilà. Écoute,
il adorait Deadly Premonition, n'est-ce pas, Julo?
Bien sûr.
Ton jeu,
c'est ma plus grande expérience sadomasochiste de toute ma vie. C'est-à-dire que vraiment, tu prends énormément de plaisir avec un truc qui te fait souffrir.
Oui, bah ça, je me rappelle très bien de la souffrance que ça m'a provoqué en moi, et des vomis aussi que ça a provoqué en moi.
Ouais.
Messieurs, nous allons maintenant passer
sympa Ah, on va passer
à une autre séquence.
Ah, une séquence incroyable et magique.
Là, on aurait pu prévoir le coup parce que j'étais pas prêt du tout.
Ouais, attention, on la refait. Attendez, 1, 2, 3.
On va passer. Non, c'était pas ça.
C'est pas ça.
C'est pas ça. Tu vas jouer avec ton piano.
Mais on peut faire. Non, mais on peut faire le quiz avant le hors-jeu, hein, si tu veux.
Ah oui, pardon.
Je peux pas faire ça. Tu peux le refaire une fois.
D'accord.
Bon, un petit peu de hors-jeu.
Encore.
Ah bon.
Oh.
Voilà, et c'est lui qui me dira à la fin. Mais on a été beaucoup trop long.
Ah oui, bah oui.
Ouais, comme d'hab. Hors-jeu. On va commencer par toi, Julien.
Bonjour. Enchanté.
Parce que toi, tu vas nous parler d'un livre. C'est rare parce que nous, on lit pas beaucoup à Joypad. On est plutôt.
À Joypad.
Lapsus.
Ça y est, j'ai. Le mec vient de prendre 10 ans dans la gueule.
Ouais, c'est exactement. J'ai 11 ans dans la tronche.
Moi, au CM2, nous, au CM2, on n'est pas au top.
J'en parlais à la récré tout à l'heure.
Chez Gameblog, on ne lit pas. Donc, c'est bizarre que tu cites un livre.
Là, c'est bizarre.
Bah, ouais, sans illustration, c'est bizarre.
Bah
moi,
oui,
ça, ça me paraît chelou.
Non, mais en plus, je suis en retard. J'aime beaucoup Amélie Nothomb.
Ouais. Ah, moi, je l'ai croisé plusieurs fois dans Paris. Quand je rentrais chez moi, elle m'a fait flipper en fait.
Ah non, mais alors la
personne. Quand elle m'a regardé, vraiment j'ai flippé.
Oui, elle est particulière. Oui, ouais.
Elle t'a laissé stupéfait et tu tremblais ensuite.
Je sais pas. Je sais pas à quoi. Non, vraiment, j'ai plus envie de repenser à ça.
Bon, enfin, le personnage est effectivement assez
spécial.
Ouais. Mais moi, c'est ses livres que j'aime.
J'avais lu Stupeur et Tremblement qui était génial.
Ah oui, il y en a plein. La métaphysique des tubes, le dernier était vraiment bon. Enfin, si on aime ceux qui aiment en plus le Japon, elle a un regard. En fait, elle est vraiment amoureuse du Japon.
Ah bah,
elle
y a vécu longtemps.
Alors, elle a eu des phases un peu difficiles.
Des hauts
débats. et en fait, elle en garde un souvenir incroyable et ça l'a véritablement marqué, etc. Elle a été fiancée. Enfin bon. Et puis comme j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'autobiographies, de dérision. C'est assez léger.
Mais t'as pas donné le titre ou j'ai rêvé de...
Non, pas encore parce qu'on en a pas parlé.
Pas encore.
Ça arrive.
Exactement. Je
on fait monter la
saison. Ça monte. Putain la vache.
Oh putain, c'est son nouveau livre. Alors en fait, c'est son dernier livre, mais je suis vraiment en retard parce qu'elle l'a sorti, je crois, il y a quelques mois. Je crois que c'est en août dernier. Ça s'appelle Pétronille.
Ça fait très plaisir à deux personnes que nous connaissons, Marc et Luc.
Ah oui, c'est ça, exactement.
Chez Pixel Love.
Alors en fait, ce qui est intéressant, bon, alors c'est du Amélie Nothomb dans le texte. Hein, donc elle raconte à quel point en fait elle adore le champagne et que le champagne agrémente sa vie. Elle se cherche un acolyte de beuverie, etc. Parce qu'elle fuit les mondanités. À la fois, c'est là où il y a du champagne, alors machin, etc. Et elle va faire la rencontre. Vous savez, et ça c'est réel, hein, tout ça est vrai. Hein. Elle fait des séquences de dédicaces. Et elle entretient énormément de relations épistolaires avec ses lecteurs. Elle a même, chez son éditeur, une pièce dédiée où elle reçoit tous les courriers. Et elle se fait un malin plaisir de répondre vraiment systématiquement. Et donc, bah là, elle fait une séance de dédicace. Et il y a une nana qui arrive et qui lui fait « Comment vous appelez ?»« Pétronille. » Et comme le nom est suffisamment... elle fait « Ah, c'est vous ?» Et elle explique à quel point, généralement, il y a parfois un décalage entre la personne qu'on s'est fantasmée en écrivant et la personne qu'on voit en face et à quel point ça peut parfois casser la magie un peu de ce truc et qu'après elle arrive même plus à leur décrire parce que bon c'est trop en décalage et que là le personnage était assez intéressant. C'est une jeune femme qui a la tête d'un jeune garçonnet de 15 ans qui est assez brut de décoffrage et compagnie. Bon, donc l'histoire est assez marrante, il y a des anecdotes plutôt rigolotes.
C'est donc une histoire vraie?
Oui, oui. D'accord. Mais comme à peu près la plupart de ses ouvrages. Enfin, elle a vraiment deux thèmes, hein. Elle a les histoires vraies et les histoires totalement romancées. Là, ça fait partie de son cycle autobiographique. Sauf que, et ça c'est intéressant pour ceux qui chercheront un peu, cette Pétronille en question ne s'appelle pas Pétronille mais existe véritablement et tous les livres que cette Pétronille va écrire, parce qu'elle va devenir dans le livre aussi auteur, inspirée par Amélie Nothomb, etc., en fait sont une espèce de reflet des vrais titres de ses vrais ouvrages. Donc vous irez chercher et vous verrez que cette personne existe vraiment et que c'est aujourd'hui une auteure, et donc vous irez voir à quoi elle ressemble vraiment et vous allez vous retracer le fil de cette histoire. En plus, alors là vraiment, pour ceux qui aiment qui parfois se disent les bouquinets c'est chiant, etc., ça se lit très facilement, extrêmement vite.
Ah ouais, elle écrit très très bien,
c'est
de manière incroyablement fluide.
Voilà, et c'est vraiment pas énorme, enfin c'est vraiment je sais pas, en 4 heures c'est fini quoi. Et donc ouais, c'est très sympa. Il y a
4 heures du temps de Julien, je calcule, hein. Vous mettrez à peu près 2 jours pour une personne normale.
Non, il y a une interview, elle raconte une interview avec Vivienne Westwood qui est assez délirante. Donc voilà, il y a plein de petits moments sympathiques.
Très bien,
c'est un petit conseil lecture.
Pétronille de Amélie Nothomb, et c'est aux éditions.
Vous verrez
si vous êtes premium, de toute façon vous allez le voir sur la couve, vous inquiétez pas.
Je sais pas, Poufleguen, ça va être marqué en bas.
Albin Michel.
Voilà,
très bien. Et Romain. Toi, oui. C'est on est pas obligé de le faire à chaque fois. Hein.
Mais j'ai envie, moi. Okay. Tu m'as laissé le truc maintenant. Okay, okay. Tu me reproches rien.
Tu te démerdes, tu te
démerdes. D'accord, voilà.
Romain. Oui. Ton hors-jeu de la semaine, c'est quelque chose que tu as depuis un petit moment, que tu t'es payé tout seul, comme un grand.
Oh, pas depuis un petit moment, depuis un mois à peu près, un petit peu plus. Oui, en fait, je vous parlais il y a quelques semaines du comic book Tortue Ninja Ghostbusters. Ouais. Et à la fin de ce comic book, je suis tombé sur une publicité. Mm-hmm. Et c'est une publicité pour un Monopoly Tortue Ninja. En fait, ils en ont sorti un il y a quelques temps basé sur le nouveau dessin animé que les enfants regardent actuellement. Et en dessous, ils en ont fait un qui s'adresse plus aux gens de ma génération avec le design du dessin animé des années 80, etc. On sait que des Monopoly, il en existe des centaines de modèles différents. Et là, j'ai craqué. J'ai jamais eu de Monopoly de ma vie. Et je me suis acheté celui-là et j'ai fait plusieurs parties. Et c'est très, très sympa, quoi. Les cases, en fait, correspondent aux différents ennemis des Tortues Ninja. Mmh. Les gares, ce sont leurs véhicules.
C'est cool.
Ouais, franchement, les petits pions,
du coup.
Bah, t'as les 4 Tortues Ninja, t'as Splinter, et elles sont en résine, elles sont plutôt bien foutues. Et c'est vraiment super sympa. Et bon, le Monopoly, hein, tout le monde connaît, ça marche
plutôt
bien.
Et tu l'as traîné déjà? T'as fait des parties?
Oh, j'ai fait au moins 3 ou 4 parties.
Ah ouais?
Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment fun. Bon, par contre, tout est en anglais. On a un côté.
Ouais, les Monopoly, passé
par la case prison.
Ça blade pas beaucoup. Ouais.
Non, tu sais, t'as les cartes caisse de communauté et chance. Mais bon, tu comprends assez facilement. Et le design. Est super sympa et franchement je me marre bien avec.
Voilà. Très bien, Julo.
Oui, alors
toi, ton hors jeu de la semaine.
Moi c'est Penny Dreadful, une série que, parce que vous savez, on pille Netflix littéralement et donc à la recherche de nouvelles séries que je connaissais pas. Penny Dreadful, c'est vachement bien. En fait, c'est une série fantastique qui mélange un peu tous les trucs ambiance Londres, époque victorienne, etc. Donc tous les mythes, le loup-garou, les vampires, Jack l'éventreur, il y a même Dorian Gray, etc. Et tu te dis, bah c'est un melting pot un peu
c'est un peu les League des Gentlemen extraordinaires.
Ouais,
mais...
voilà,
mais
ouais, justement,
un peu le Once Upon a Time, mais ouais. Version...
voilà,
version...
aussi Once Upon a Time, ouais.
Voilà, exactement. Et tu te dis, ça peut pas prendre, c'est pas possible. Mais en fait, si, c'est assez cool, parce qu'en fil rouge, t'as l'histoire d'une famille, comme ça, avec... une jeune femme qui a disparu et toutes ces personnes qui naviguent dans les trucs un peu occultes, etc., qui essayent de recruter un mec au départ pour les aider à retrouver cette jeune femme. Et ils t'emmènent dans l'histoire et ils te font connaître justement cette famille et l'histoire de cette famille petit à petit, de plus en plus. C'est le fil rouge de la première saison, en tout cas, jusqu'à une fin assez cool qui m'a donné vraiment envie de voir la suite. Et d'ailleurs, le trailer de la saison 2 est paru il y a une semaine ou deux sur YouTube. Donc voilà, c'est l'assurance aussi d'une deuxième saison qui arrive assez vite là.
Puis il faut le dire, il y a Eva Green dedans. Eva, si tu me regardes.
Oui, alors Eva Green, grand débat,
c'est
marrant,
au cœur de la rédaction.
Oui, il y a un grand débat au cœur de la rédaction.
Est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est pas belle? En tout cas,
elle est bien sûr qu'elle est belle, c'est évident qu'elle est belle. Après, elle ne plaît pas à tout le monde dans la rédaction.
Voilà,
c'est
une question de goût. Voilà.
Mais en tout cas, elle a donc un rôle, le rôle central, on va dire, dans cette série. Et elle est très, très, très bonne.
Bonne actrice.
Bah bien sûr, mais où avez-vous l'esprit, les amis?
Ah, ouais. Là, je veux un zoom sur le visage. Les yeux de Julo.
Non, elle est vraiment. Elle est très bien dans son rôle, très convaincante. Ça fait partie des bonnes raisons de suivre cette série. Voilà.
Très bien. Eh bien, une fois n'est pas coutume, moi aussi je vais vous donner un hors-jeu
cette
semaine.
Oui, mais j'ai Claude Bourgeois.
Ouais, parce qu'il y a un truc que j'ai fait là. Nous sommes allés à Étretat avec ma femme. Vous savez que ma femme. Ici, vous le savez,
Colombo,
est
quoi.
Une grande fan de Arsène Lupin. Et on est tombé sur la réédition en DVD des Arsène Lupin avec Georges Descrières, donc qui date des années 60, et Roger Carrel aussi. Et ça a peut-être un peu vieilli, mais c'est quand même vachement bien. C'est un petit moment, un petit plaisir coupable, parce que bon, la réalisation de l'époque, le jeu d'acteur est un peu surjoué,
ça,
tu vois.
Ouais, mais ça fait partie du charme.
Ah, mais le charme est totalement là. Et donc, je vous le conseille absolument. Si vous voulez, si vous n'avez pas le temps de lire les bouquins, bah voilà. Faites-vous le coffret avec, je sais pas, il y a 23 épisodes, je crois. Hein, donc, 23. Oh. Peut-être 23 bouquins, ou vous êtes même voir 29 peut-être.
Il y en a que ça.
Ouais, il y a que ça. Il n'y a pas tout, hein. Il n'y a pas tout qui a été adapté. Mais il y en a plus d'une vingtaine en tout cas. Et je sais qu'il y a 23 heures en tout de contenu vidéo. Et voilà, je vous le conseille grandement. Ça sera toujours mieux que le film avec Romain Duris. Bref,
c'était pas bien.
Je crois que c'était un peu nul à chier.
Ah merde.
Je crois qu'ils ont mélangé plein d'histoires en même temps. Puis bon, Romain Duris, je sais pas que je l'aime pas, hein, mais c'est vrai que je l'aime pas. Ah bon? Ah non, mais en tant qu'acteur.
Lui, t'aimes beaucoup.
Moi, j'ai mais je suis sûr qu'il est, super sympa, mais vraiment, il y a beaucoup de films.
J'ai revu
où
le cycle.
Donc, c'est avec Clapiche.
Ouais, c'est ça, avec l'auberge espagnole, les poupées russes et. Je m'en rappelle plus.
Castel chinois.
J'adore.
Ouais, mais c'est. Moi, c'est. Après, voilà, j'ai pas de. Enfin, j'ai rien contre lui en particulier, mais c'est vrai que. Quand je le vois dans un film, j'ai toujours un peu de mal. Mais bon, c'est comme ça, hein. Après, peut-être que mon avis va changer un jour. Mais bref, avant que mon avis change, nous allons passer...
Oui,
au quiz, absolument. Messieurs, vous êtes prêts?
Oui.
À crier...
Ça faisait longtemps.
Oui, ça faisait super longtemps, ouais. À alors, crier vos petits pseudos.
C'est très longtemps, ça. Pouvoir,
Non, mais je te laisse faire, tiens. T'as envie de jouer avec, tu joues avec.
Bah hein, non, mais merde. Je sais pas si c'est bon, pas non, bon.
Je me calme, je me calme.
Moi, je te le dirai.
T'as fait chier.
Hein. Ouais,
ah non, mais tu veux jouer.
Tu veux vraiment refiler le bébé. Hein.
Ouais, tu veux jouer avec mon iPad. Tu vas jouer
non,
avec
mais
mon iPad.
Fou,
hein.
Tu bosses plus. Hein. C'est fini.
Mais c'est cool. Je peux quand je réponds, je peux.
Voilà.
Ok.
Eh ben c'est bon.
Alors ouais. Voilà, quand je lui réponds.
Voilà. Un point. Un point.
Vas-y, alors
un
vous point. Vous pourrez dire ce que vous voulez, les gars. Moi et encore. Voilà.
Ah, quel scandale. Allez, coin, quel coin, scandale. Encore coin.
Question numéro 1, vous êtes prêts?
Attendez, oui. je visionne déjà la fin de ce Julo. Voilà. Bon, on peut passer à la suite.
Rembourser nos invitations.
Bon, question numéro 1. Quelle est la particularité de Dylan Markey, chargé d'animer des séquences du show américain Robot Chicken?
Ça fait plaisir.
Romain.
Ouais.
Il a fait la voix de Mario dans un épisode.
Non, toi t'as ouvert la news mais t'as pas fait plus.
Ah merde,
j'ai raté cette news.
Peut-être.
Ah bah c'est sûr mais...
Ouais, t'as dû la rater.
Merde, je ne sais pas.
Bah, maintenant c'est Julo qui fait tout hein, au niveau de son. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit.
Ce qui est bizarre c'est que ce sketch sur Mario qui parodie
ouais,
GTA aussi,
absolument.
Il est très vieux.
Ouais, c'est bizarre qu'il y ait Robot Chicken a eu une dizaine d'années à peu près. Hein.
Ouais, mais ils en ont fait encore récemment des épisodes.
Mais ils arrêtent pas, ils font des spéciaux Star Wars.
C'est marrant que ce sketch-là sur Mario ressorte. Alors
c'est pas qu'il ressorte, c'est moi je l'ai sélectionné pour la news, hein, c'est tout.
Ah d'accord.
Je me suis dit, il en fallait un représentatif et c'était celui-là pour moi.
D'accord.
Bon, vous voyez pas.
Non.
Eh bien, il utilise un Power Glove modifié pour son boulot d'animation.
Ah, c'est ça.
En fait, avant il avait un petit ordinateur relié en USB. Puis un jour il s'est dit. Oh, il me faut un truc plus cool, machin. Et il a modifié un Power Glove pour faire du montage en direct sur son
voilà,
logiciel
voilà,
de montage.
Ce faire.
Et c'est juste extraordinaire. Le mec, il a rendu cool un objet pourri des années 80.
Ah non, ça reste un objet cool.
Non, c'est vrai, ça marchait pas.
Ça faisait rêver, mais c'est pire que Kinect. Quoi.
Ouais,
non, d'accord,
la déception,
mais c'est un objet cool.
Mais non, c'est pas un objet cool à partir du moment où ça marche pas.
Tu sais que j'ai eu un flash là, je me souviens à l'époque de la NES. Moi j'étais vraiment tout petit. Hein.
Oui, ça
et
je te confirme.
Dans un magasin de jouets avec mon père où le vendeur nous présentait les jeux NES et il nous avait présenté le Power Glove. Et mon père, c'est génial ce truc. Il pensait que. Après, on l'a jamais essayé, donc on savait pas, mais rien que le concept, ça pouvait démocratiser le jeu vidéo parce que ça rendait le truc plus intuitif, alors qu'en fait, ça a jamais fonctionné.
Non,
mais
ça fonctionne
le
très,
concept
très mal,
était, l'idée était pas forcément
bah voilà,
mauvaise.
Bah, y a quelqu'un qui sait l'utiliser aujourd'hui.
Et comment
que ça va
avoir l'idée de reprendre le Power Glove pour faire
ah bah,
un
le
truc
mec,
comme ça.
De toute façon, tu le vois, le mec, je pense qu'un, c'est un illuminé, et deux, c'est le dernier des geeks. Donc, y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est un génie. Voilà, pour moi, c'est un génie. Respect. Question numéro 2. À quelle date exacte cessera le club Nintendo?
Julien.
Ah
oui.
Merde,
le 1er avril.
Non, Romain.
Non, mais ça commence le 1er avril.
Je veux un coin.
Romain.
Mais ça commence le 1er
avril. Je veux la date de clôture.
Romain. Ça commence le 1er avril.
Ne commence pas à vouloir
griller. Oh, quelle honte.
Romain.
Le 30 septembre.
Bravo Romain, c'est un point.
Il se passe un truc le 1er avril. C'est le début de la fin.
Ils arrêtent de mettre des codes dans les jeux.
Voilà.
C'est le début de la fin.
Oh non, c'est pas joué à la fin.
Oh merde. Parce que je trouve tout ça court. Amusant de commencer l'arrêt du truc le 1er avril. T'as une bonne blague.
Question numéro 3. Dontnod travaille sur un RPG intitulé Vampire.
Oh merde.
Pour le compte de quel éditeur?
Romain.
Oui.
Square Enix.
Perdu.
Julien.
Oui.
Focus.
Bravo, petit son. Bravo. Un point pour Julien, un point pour Romain. Question numéro 4. Comment se nomme l'édition free-to-play de The Elder Scrolls Online qui arrivera le 9 juin prochain sur PC, Mac, mais aussi PS4 et Xbox One. C'est un nom génial.
Bah c'est Julien.
Oui.
C'est le buy-to-play.
Non. Non, non, c'est le nom du jeu.
Ah, le nom du jeu.
Ouais, c'est le nom du jeu.
Je me souviens plus.
Tu peux le refaire encore?
Merci. Je ne sais plus.
Ça vous dit rien?
Non.
C'est génial hein, comme nom. Franchement... Allez, je vous donne un indice à tous les trois. Alors profitez-en.
Julien a déjà répondu, hein. C'est mort.
Ok,
dire,
Julien a déjà répondu. Ah bah
non, si on se base sur les règles.
Ah bah pas d'indice.
Ouais. Ok, alors je donne pas d'indice.
Ou alors donne-le, on joue.
On
joue pour la gloire.
Alors pour la gloire. Alors pour la gloire, tous les trois, vous allez répondre pour la gloire. Ça ressemble un peu à un groupe de techno des années 90 que je vous aurais fait écouter hier en répétition.
Dinosaur Call Online Unlimited.
Master Boy.
Alors, il y a Unlimited. C'est Time Riel Unlimited.
Time?
Time Riel.
Ah, Time Riel.
Time Riel, c'est
le nom du lieu
voilà.
Où se situent les aventures.
Donc, il n'y a pas de points. On va finir avec la dernière
Time
question.
Time Riel Master Boy.
Attends, il y a juste un point. Quelqu'un a un point.
Non,
là,
Julien et Romain ont un point. Okay, question numéro 5.
On peut faire l'école des fans là, si je gagne.
Exactement. Suikoden 1 et 2 arrivent bientôt sur le
PlayStation. Julien. Le 4 février.
Bah ouais, bravo.
Allez,
Julien.
Allez, y'a quoi ?
C'est Julien qui remporte.
Bah attends,
je suis
connaître quand même.
Oui, bah oui.
Premier test dans PlayStation
elle
Magazine.
Elle
bravo.
Était presque 96. Un peu pour toi. Bah écoute, bravo Julien.
Et d'ailleurs, pour l'occasion, je me demande si je vais pas republier mon test de 96.
Ah, je sais pas, mais tu pourrais le on pourrait le refaire en live déjà.
Ouais. Ce serait cool.
Les non, deux, tu j'ai tellement en live, mais
par contre, tout le jeu.
J'ai tellement hâte.
Bah tu sais, tu peux le faire en moins de 10 heures, hein, franchement.
Quoi ?
Ouais, ouais. Non, mais tous les jours, là, depuis qu'ils l'ont annoncé, je suis sur ma Vita et je vais sur le PSN et je fais Suikoden. Ah merde.
Mais tu sais, je vais dire un truc, je me souviens à l'époque, les tests m'avaient fait super envie. Il y avait des pubs dans tous les magazines. Pas moyen de le trouver. Je pense qu'ils ne l'ont pas édité à beaucoup d'exemplaires non. À l'époque. J'ai jamais pu faire Suikoden alors qu'il m'a toujours fait envie. Donc là, depuis qu'il a été annoncé au PlayStation Experience, je me suis dit que ça allait enfin être l'occasion d'utiliser
2,
ma Vita en plus.
Le 2 est vraiment top.
Le 2
donc,
est extraordinaire.
Je pense que je vais craquer dès que.
Les deux
dès
sont
que
une tristesse en plus. Enfin bon. Voilà. Victoire de Julien. Victoire de Suikoden pour le 4 février. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Je rappelle que évidemment aussi vous pouvez réagir dans les commentaires, que vous pouvez aussi avec le hashtag GameBlockPodcast nous poser vos questions. C'est très important. Répondez, posez vos questions. Et surtout
merci à Pat Le Guen.
Merci
Le Guen.
Voilà.
Merci.
C'est la première de cette nouvelle mouture.
J'allais
dire
merci
à vous dire ce que
vous
en avez pensé.
Merci aussi à Romain. Merci à Julien.
Merci
à Julo. On se retrouve.
Comment il a parlé de sadomasochisme.
Il m'a bloqué là.
Il nous fouette. Ok. Il y a un message.
T'es content de tes conneries, toi. Hein.
Ouais, je l'attendais.
Bon, je peux.
Vas-y, je t'en prie.
Bon.
Plumeau.
Vas-y. Ouais, non, t'allais faire quoi ?
Rien, une bêtise. Une bêtise.
Bon.
Vas-y, c'est là qu'on dit au revoir.
Ouais, mais j'ai peur de dire au revoir là. Parce
non,
que
non, pas du tout.
Tu vas me faire des conneries.
Non, je te promets, regarde. Hop, voilà.
Très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine d'actualité passée au crible. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout, jouez bien.
Salut,
ciao.
Salut.